Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, bon réveil, joyeux Noël sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal à 7h avec Rachel Saadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Charles, bonjour à tous. C'est assez rare pour le souligner. Vous êtes nombreux ce matin à observer des flocons au réveil. Il neige en pleine pour Noël. Les salariés de l'usine Brandt d'Orléans espéraient un miracle et en voilà peut-être un. Le patron de Thomson Computing a déposé une offre de reprise hier. Et puis, dès lundi, en cas de très grand excès de vitesse, vous risquez de passer par la case prison. Une mesure radicale qui divise les automobilistes. Vous les entendrez.
C'est un peu la magie de Noël, la neige est tombée ce matin.
2 à 3 cm déjà en pleine selon Météo France qui retire par ailleurs, Charlène le disait à l'instant, sa vigilance orange neige-verglas concernant la Drôme et l'Ardèche. En Vendée, il y a donc un joli manteau blanc dans le champ d'Emmanuel, un éleveur qui nous a appelé au 32-16 ce matin.
C'est la magie de Noël. Ça, c'est sympa parce que j'en connais plein qui vont au ski tous les ans et qui galèrent parce qu'ils n'ont pas de neige à Noël. Ben là, impeccable. Les pelouses sont recouvertes d'un petit manteau blanc tout léger. Cette nuit, quand on est rentré, tout le monde regardait les téléphones. Il va neiger, il va neiger. C'est la magie de Noël pour nos enfants. Quand ils vont se réveiller, je peux vous assurer que ça va... Je pense que ça va être la neige avant les cadeaux. Ça va être le côté sympa. Ouais, je pense qu'il faudra pas qu'elle se jette dedans parce qu'elle risque de se faire mal. Mais ça va être vraiment le côté sympa quand même.
Emmanuel, agriculteur en Vendée, qui nous offre d'ailleurs un joli cadeau. Un petit veau doit naître aujourd'hui dans son élevage. Et Emmanuel, Charles, il nous a confié vouloir le prénommer RMC.
Génial, c'est aussi incroyable. C'est la magie de Noël.
Ça, c'est un très beau cadeau. Et les flocons ne seront pas les seuls à rendre ce Noël magique. Des cadeaux inattendus parfois, mais bien sûr toujours sous le sapin. Le sapin, vous les avez peut-être déballés dès hier soir, comme cette famille de petits impatients en Seine-Maritime, Léonie Guilbeault.
Au pied du sapin, les paquets cadeaux s'empilent.
Bah oui, il est génial le Père Noël.
Pour le plus grand bonheur de Gaspard et Scarlett, 9 et 7 ans.
Il est trop gros, c'est ici.
Ça, c'est Gaspard, de là. Et de là, c'est Scarlett.
C'est ce que je voulais.
Ouais.
C'est Barbie.
Une Barbie Rainbow Eye.
Je voulais tellement ça.
Maman, encore une Barbie.
Gaspard lui aussi est content, il a reçu
des Lego parce que j'adore construire.
Après j'ai mon meilleur jeu de société.
Il y en a 3 que j'avais commandés et 2 que je m'y attendais pas.
T'as gâté le Père Noël aussi, hein mon chéri?
Oui, du coup je suis contente.
Et le Père Noël n'a pas oublié les parents.
J'ai eu un magnifique gilet Cézanne.
Emmanuel, la maman.
Et comme je cours beaucoup, le Père Noël m'a gâté. J'ai un gilet réfléchissant pour pas me faire écraser quand je cours la nuit. C'est un super cadeau.
Des cadeaux qui ont fait des heureux, Gaspard et Scarlett en ont profité jusqu'à tard dans la soirée.
De leur côté, les irréductibles agriculteurs de l'A64 ont fêté le réveillon de Noël sur leur barrage hier soir. À Carbonne, une messe a été célébrée sous une tonnelle de 40 mètres de long. Les éleveurs, ils sont mobilisés depuis une dizaine de jours. Ils s'opposent à la gestion gouvernementale de la dermatose nodulaire contagieuse.
Et nous serons en direct d'ailleurs dans quelques minutes avec l'un de ces éleveurs qui a passé le réveillon de Noël sur le barrage de l'A64. Ce sera juste après le journal. On en vient à cette annonce surprise de Noël. L'usine Brandt d'Orléans a encore une chance d'être sauvée.
Oui, une offre de reprise a officiellement été déposée hier par Stéphane Français. C'est le patron de Thomson Computing. Il propose de conserver 150 des 350 emplois du site. La promesse, elle est intéressante pour les salariés, mais il préfère malgré tout rester prudent, Victor Giré.
À la sortie de la mairie d'Orléans, où le patron de Thomson Computing a déballé son projet de reprise, Sylvain, salarié de Brandt, veut y croire.
Ça m'a l'air d'être quelqu'un de très volontaire et qui veut vraiment aller de l'avant et très investi dans ce qu'il a envie de monter.
Mais derrière cette ambition affichée, les interrogations restent nombreuses. Sur les 350 salariés du site d'Orléans, seuls 150 postes seraient conservés.
Quel service? Est-ce que c'est de la production, de la R&D, les services annexes? On avait tous ces services sur Orléans. Dans quelle mesure ils vont être impactés et qui va rester?
Le repreneur veut maintenir une partie de la production d'électroménager pour honorer les commandes. Il souhaite également développer sur le site d'Orléans ses activités informatiques. Un virage qui inquiète Denis Bernier, salarié depuis 36 ans chez Brandt.
Il parle beaucoup de drones, d'informatique, de PC, de choses comme ça. C'est pas du tout notre cœur de métier. Nous, on est dans l'électroménager. J'ai trouvé qu'on a peu parlé de l'électroménager en définitive. On a du mal à se projeter.
Thomson espère démarrer début février son activité, mais le projet doit d'abord être validé par le tribunal de Nanterre. L'État et la région attendent encore des garanties et espèrent d'autres offres de reprise. La procédure ne fait que commencer.
On entend hein, ces salariés qui ont envie d'y croire, mais qui restent sceptiques. Eh bien, Stéphane Français, le patron de Thomson, qui veut reprendre Brandt, sera mon invité dans une heure en direct sur RMC. Faut-il croire à son projet? Qu'est-ce qui devrait nous pousser à y croire? Il répondra à toutes les questions tout à l'heure en direct sur RMC.
L'Algérie réclame des excuses et des réparations à la France pour son passé colonial. Les députés algériens ont adopté hier soir une loi pour criminaliser la colonisation française. Un texte jugé hostile par Paris qui dit travailler à la reprise d'un dialogue avec l'Algérie.
7h06 sur RMC et les très grands excès de vitesse qui vont devenir des délits.
Passible de 3 mois de prison et d'une amende allant jusqu'à 3 750 €. Dès lundi, tout excès à partir de 50 km/h sera inscrit au casier judiciaire. Et c'est un changement radical qui vise, Marius Roland, à sauver des vies.
Si la punition est aussi sévère, c'est parce que les excès de vitesse augmentent en France. L'année dernière, environ 63 000 excès de plus de 50 km/h avaient été recensés. C'est près de 70% de plus qu'en 2017 selon la sécurité routière. Le gouvernement souhaite donc frapper fort. Rouler à 180 au lieu de 130 est aujourd'hui puni d'une contravention. Ce sera désormais un délit. Sanctionné donc jusqu'à 3 750 € d'amende et 3 mois de prison, en plus des peines complémentaires comme la saisie du véhicule ou la suspension du permis de conduire pour 3 ans. L'objectif de ce décret est simple, diminuer les accidents dus au comportement à risque, car la vitesse est la première cause de décès sur les routes en France.
Et d'ailleurs, si ça vous fait réagir, vous n'hésitez pas, vous connaissez le chemin, le 3216, le WhatsApp aussi d'RMC. Est-ce qu'il faudrait aller plus loin? Est-ce que c'est une bonne mesure? Vous venez nous le dire en direct sur RMC. À 7h07, cette fin d'année, c'est aussi l'occasion de revenir sur l'incroyable saison du Paris Saint-Germain.
Oui, les footballeurs se reposent en ce moment en famille, comblés, à n'en pas douter, par les 6 titres qu'ils ont décrochés cette saison. Valentin Jamin, c'est tout simplement du jamais vu pour un club français.
Oui, avec en apothéose le sacre tant attendu en Ligue des Champions, la première de l'histoire du club.
Avec Doué, Doué, faut y aller, Doué ! Paris sur le toit de l'Europe, 14 ans d'attente pour les propos.
Paris a dominé le continent en gagnant aussi sa première Super Coupe d'Europe, puis la Coupe Intercontinentale il y a 8 jours. Le défenseur Nuno Mendes salue cet excellent bilan.
C'est une fierté, bien évidemment. Nous, on est là pour faire l'histoire dans le club. Chaque année qui passe, je pense qu'on est plus conscient qu'on est en grande équipe, que c'est notre mentalité, c'est la mentalité des vainqueurs.
Avec la Coupe de France, la Ligue 1 et le Trophée des Champions, cela fait donc 6 titres en 2025. Seuls Barcelone et le Bayern Munich l'avaient déjà fait. Et ce collectif a porté Ousmane Dembélé vers le Ballon d'Or.
Ça clôture une très belle année où je pense qu'on a dominé le football mondial et gagné un ballon d'or, c'est exceptionnel.
Le tout grâce à l'harmonie trouvée par l'entraîneur Luis Enrique.
Si on pense seulement à l'année naturelle de 2025, c'est clair que c'est historique pour les clés, pour les Parisiens.
Le seul couac, c'est une défaite en finale de la Coupe du Monde des Clubs contre Chelsea et il faudra attendre 2029 pour essayer de soulever ce trophée.
Mais oui, évidemment. Et puis, on remercie Rachel Saadodine pour le journal de 7h. On vous retrouve à 8h30.
À tout à l'heure.
Rachel. Et on continue, évidemment, eh bien, à fêter Noël ce matin, tous ensemble, en direct sur RMC dans Apolline Matin. Quand je dis tous ensemble, c'est dans ce studio, évidemment. Victor Pourchet est à mes côtés. Et puis, vous, au 32-16, je vois Vincent qui nous appelle déjà de Gironde. Bonjour, Vincent.
Bonjour, Charles.
Bonjour, Vincent. Moi, ça va très bien. Et vous, Vincent, joyeux Noël.
Ben ouais, joyeux Noël à vous. Très surpris ce matin de vous retrouver, Charles. Très heureux. Ah bah,
c'est l'autre miracle de Noël, Vincent. On est ensemble.
Tout simplement.
Mais oui. Mais racontez-nous, vous, Vincent. C'est surtout le bonheur d'être ensemble ce matin sur RMC. Racontez-nous, Vincent, là, qu'est-ce que vous faites réveiller à 7h09?
Oh, ben moi, je suis réveillé tôt le matin. Ma femme travaille, elle. Donc, nous avons réveillonné tous les quatre avec mes deux filles hier soir. Et puis voilà, ma femme est aide-soignante. Elle travaille aujourd'hui.
D'accord. Et donc hier soir, racontez-nous votre soirée un peu. Comment ça s'est passé ce réveillon?
Oh, petit repas tranquille, assez sage. Foie gras, magret, saumon, un petit peu de tourneau de Rossini, une bûche, chocolat.
Ah bah, oui. Vous la jouez modeste, Vincent, mais repas de fête hier soir. Et alors j'imagine que si votre épouse travaille ce matin, c'est que les cadeaux ont été déballés dès hier soir?
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qu'il y avait sous le sapin, Vincent?
Oh, des petits cadeaux. Nous, on s'était déjà fait des cadeaux avec des vélos pour ma femme et moi, celle pour ma fille et des places de rugby pour mon autre fille.
Ah bah pas mal, petit cadeau. Oui. Vous m'avez dit petit repas et petit cadeau. C'était plutôt généreux, que ce soit à table ou sous le sapin hier soir, Vincent. Et vous, alors, si j'ai bien compris, vous êtes tranquille à la maison ce matin, mais je vais en profiter à travers votre épouse. C'est ça qui est partie bosser là, qui est aide-soignante.
Oui, c'est ça.
Bah, on va saluer tous les courageux là qui sont au boulot ce matin.
Tous les matins.
Ben oui, tous ceux qui se lèvent tôt, y compris le matin de Noël. C'est très important de les souligner et de les saluer ce matin à travers vous. Vincent, merci beaucoup. Joyeux Noël à vous. Vous êtes nombreux à vouloir fêter Noël ce matin en direct sur RMC. On quitte la Gironde pour le Loiret avec Corinne Fleury-les-Aubrais. Bonjour Corinne.
Oui, bonjour Charles.
Comment ça va Corinne?
Joyeux Noël.
Joyeux Noël à vous. Ben, même question Corinne. Qu'est-ce que vous faites là à 7h11 là?
Ah bah, je suis réveillée tous les matins vers 4h30, 5h. Donc, même si je me couche à 11h30 comme hier soir, et bah, je suis encore une matinale.
Ouais, une lève tôt, mais ça, c'est une qualité, Corinne. Mais vous avez quand même réveillonné un peu hier soir?
Oui, j'avais ma fille et mon gendre avec moi. On a fait un petit repas aussi tranquille. Voilà. Bah, chacun a choisi son plat. Puis voilà.
Ah, c'était au choix hier soir?
Oui.
Ouais, d'accord. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez choisi, Corinne?
Alors moi, j'ai fait vraiment Saint-Jacques à fond.
Saint-Jacques à fond, full Saint-Jacques hier soir pour Corinne. Ok, bah c'est repas de fête quand même. Mais fait comme Vincent, vous me dites petit repas, bah quand même Saint-Jacques, c'est pas tous les soirs. Donc c'était repas de fête hier soir pour vous, Corinne. Et il y a eu quelques cadeaux?
Alors, les jeunes m'ont offert un soin, une heure détente, voilà, dans un spa.
Sympa.
Et puis, comme Vincent, fan de rugby, donc pour les jeunes et moi-même, hein, dès l'instant où il y a un match de rugby, je prends les places. Donc, c'est Noël toute l'année pour le rugby, quoi.
Ah, ça, c'est super. Mais oui, on s'offre de plus en plus des expériences. Plutôt que des objets, Corinne, dont on va pas forcément profiter, qui vont dormir dans un placard, que ce soit le soin, la détente pour vous, les places de rugby, etc. C'est des expériences qu'on va vivre ensemble cette année. C'est des très beaux cadeaux. Et je suis ravi de partager ce matin de Noël avec vous. Corinne, tranquille aujourd'hui, vous bossez pas aujourd'hui, vous êtes fonctionnaire, c'est ça?
Oui, repos aujourd'hui, je reprends le travail lundi.
Voilà, repos, jusqu'à lundi prochain, mais on est là pour vous,
mais
les leftos.
Mais belle surprise de ce matin, hein.
Mais oui,
pour autour vous... de Charles.
Mais oui, c'est la petite surprise de Noël, c'est comme ça, c'est le cadeau et c'est un bonheur de se réveiller avec vous en ce matin de Noël sur RMC. Ouais. Corinne, je vous embrasse, on remercie aussi Vincent.
Bonne fête de fin d'année à tous.
Merci à vous aussi, joyeux Noël Corinne, merci d'avoir composé le 32-16. Faites comme Corinne, comme Vincent, racontez-nous, est-ce que vous avez réveillonné hier soir, est-ce qu'il y a eu quelques cadeaux, et puis ce matin, le réveil, peut-être en famille, peut-être déjà au boulot, comme l'épouse de Vincent, tiens, qui bosse ce matin, on se pose la question au 32-16, n'hésitez pas, on partage tous, évidemment, en direct sur RMC, il est 7h13.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Charles Magnin.
7h16, bon réveil à tous, joyeux Noël sur RMC. Nous sommes en direct dans Apolline Matin et on parle tout de suite de cette messe de Noël qui a eu lieu hier soir au beau milieu de l'autoroute. Un banquet géant des agriculteurs du Sud-Ouest qui ont passé la nuit sur l'A64, sur le barrage de Carbonne. C'est votre cas, Bertrand Loup, bonjour.
Bonjour.
Éleveur bovin, vous êtes également vice-président de la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne. J'ai d'abord envie de vous demander, Bertrand Loup, de nous raconter votre soirée sur l'autoroute.
Ben écoutez, notre soirée, c'est le 13e soir qu'on passe sur l'autoroute, étant donné qu'on a des demandes vis-à-vis de l'État qui ne sont pas non seulement assouvies, mais qui ne sont pas du tout prises en compte. Donc, on a très peu de contacts.
On va y venir, Bertrand Loup, à vos demandes, ouais. Au fond, évidemment, à vos revendications. Mais vous dites que c'était la 13e soirée, mais ce n'était pas une soirée comme les autres. Hier soir, c'était Noël.
Non, tout à fait, ouais. Ben justement, on tenait quand même à garder les traditions à l'honneur, et puis malgré la souffrance et les mauvais moments, on essaie de justement vivre des bons. Et donc du coup, on a organisé cette messe de Noël. Des prêtres nous avaient contactés justement, ils s'étaient portés volontaires pour nous la tenir. Et donc du coup, on a monté un chapiteau, on a monté un hôtel de paille, on a fait venir des chaises, tout ça par solidarité. Et puis on est arrivé à 300, 400, 500 personnes qui sont arrivées hier soir.
Faut le dire, il y avait des habitants, vos familles, j'imagine.
Ouais, tout à fait. Oui, ben nos familles, parce que justement, on est habitué à les passer ensemble. Donc, au lieu de les passer chez nous, on les a passés sur l'autoroute. Et après, les habitants, ouais, il y a beaucoup de gens, parce qu'on est énormément soutenu par la population. Mmh. Et donc, ils ont tenu à venir passer ce moment. Certains sont venus juste pour la messe, ils sont repartis manger dans leur famille après. Mmh. Certains sont restés avec nous toute la soirée, ont profité du banquet qu'on a organisé. Et voilà, on a vécu un grand moment de solidarité, de fraternité. Et tout ça sous un pont.
Oui, et tout ça, j'imagine que justement, ce grand moment, cette messe, ce banquet, ça réchauffe le cœur, ça, comment dire, renforcer votre détermination?
Complètement. fait, tous les jours, le soutien de la population nous montre qu'on est dans le vrai et que notre lutte pour notre territoire et pour notre agriculture locale, elle est justifiée. Donc, et là, justement, avoir encore plus de monde et tout cet engouement et puis cette fraternité, j'y reviens, hein, parce que sans ça, il n'y a rien. Ça nous galvanise.
Mais en attendant, donc, il y a des revendications sur le fond. Elles sont toujours là. Il y a le cas de la dermatose. En Haute-Garonne, un nouveau cas a été confirmé. 72 vaches d'un troupeau ont été abattues. L'épidémie n'est toujours pas sous contrôle. Ça va se poursuivre, les abattages. Ça reste votre revendication numéro un, la fin des abattages?
Mais ça en fait partie, oui, tout à fait. Alors, c'est celle un peu phare parce que c'est la mesure qui crée de l'émotion, hein, parce que l'abattage des troupeaux, c'est quelque chose de très heurtant. Oui, en fait, c'est un traitement de la maladie seulement pour justement maintenir les transactions commerciales à l'export. Et on dénonce ça. Et derrière, il y a des effectifs de races locales, il y a de l'humain, il y a du travail de plusieurs générations qu'on se permet de balayer juste pour tenir des engagements d'exportation, mais ça, on le supporte pas.
Mais Bertrand Loup, je rappelle que vous êtes éleveur bovin, vous êtes vice-président de la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne. En fait, là, quand je vous entends, j'ai bien compris que vous allez aussi passer la Saint-Sylvestre, hein, vu comme c'est parti sur le barrage. Qu'est-ce qui vous fera lever le barrage, en fait?
Alors, c'est la prise en compte de notre protocole, parce que de notre protocole de traitement de la dermatose, parce que des scientifiques se sont engagés justement à l'étudier, mais se permettent de prendre 3 mois pour nous répondre. Donc, étant donné qu'on a au moins 2 élevages qui sont éradiqués, qui sont supprimés de la carte chaque semaine, ça, on peut pas le supporter.
Et mais puis, c'est que la dermatose, parce qu'ensuite il y aura le Mercosur, etc. Enfin, ça peut durer des mois, ce barrage.
Alors justement, le Mercosur, c'est une chose, mais nous, on a le monde céréalier de l'Occitanie, et plus particulièrement de la Haute-Garonne, qui est vraiment en souffrance depuis plusieurs années. Et cette année, on est arrivé au point de non-retour. On a plus de 90 fermes qui sont en redressement judiciaire. On demande une régionalisation de la gestion de l'agriculture. Ça, c'est une vision à moyen terme. Et en urgence, on a demandé vraiment une mise en place de moyens pour justement leur donner un peu d'oxygène pour passer 2026 et arriver jusqu'à 2027, la nouvelle PAC, et la préparer ensemble, justement.
Oui, mais ça fait beaucoup de revendications. Dans le même temps, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques qui chiffre à plus d'1 million d'euros, hein, le coût global des blocages dans le département. On parle du nettoyage, la remise en état des routes, les pertes pour les sociétés d'autoroutes aussi. Vous craignez pas que ça va se finir, comment dire, la préfecture risque d'intervenir, vous risquez d'être délogé dans les jours qui viennent?
Oui. C'est eux qui verront. Il y a juste une chose, c'est que nous sommes des citoyens comme les autres. Hein. Nous sommes des acteurs économiques comme les autres. On n'est jamais reçu par l'État, à part par le préfet. Mais on n'a pas de contact avec nos élus, avec nos gouvernants. Certains syndicats l'ont. On trouve qu'il y a un manque de partialité. Il y a une certaine connivence qui nous dérange. Et notre territoire n'est pas pris en compte depuis plusieurs générations. Donc on se bat pour ça, pour sauver notre agriculture locale. Et pour ça, il faut qu'on ait un contact. Il suffit d'avoir un peu de respect mutuel.
Oui, du dialogue.
Et du dialogue. Et à partir de là, les choses pourront se débloquer. On pourra travailler ensemble.
Merci Bertrand Loup, éleveur bovin, vice-président de la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin pour nous raconter votre réveillon, ce Noël particulier sur le barrage de l'A64 au niveau de Carbonne. On entend votre détermination ce matin en direct sur RMC. Il est 7h22. Dans un instant, dans Apolline Matin, c'est Arthur Chevalier, notre historien, qui va remonter l'histoire du tatouage à travers le temps. Et puis je vous attends au 32-16 évidemment pour témoigner. Il y a cette info à la une ce matin sur RMC, les grands excès de vitesse qui vont devenir des délits. Les excès de plus de 50 km/h seront désormais sévèrement punis, 3 mois de prison, 3 750 € d'amende. Ça vous fait réagir, vous témoignez au 32-16 et puis vous nous racontez votre Noël évidemment, votre réveillon hier soir, le programme pour vous ce matin, vous n'hésitez pas à le faire au 32-16. On se retrouve dans 40 secondes.
RMC Apolline Matin,
7h23 sur RMC à la radio, RMC Story, hein, on est en direct aussi à la télé sur le canal 23 de la TNT en ce matin de Noël, quand l'histoire éclaire notre actualité. C'est tous les jours avec Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, qui revient aujourd'hui sur l'histoire des tatouages.
Arthur, de plus en plus de Français se font retirer leurs tatouages, détatouer. C'est le cas notamment de célébrités comme Zlatan Ibrahimovic ou Nabila. Le mondial du tatouage vivra peut-être sa dernière édition en 2026. Le tatouage n'a plus la cote, mais pour vous, rien n'est joué.
Oui, Pauline, le tatouage, on a vu d'autres, hein, de toutes les modes. C'est celle qui résiste le mieux au changement d'époque. Le tatouage était là bien avant nous et il nous survivra.
Parce que le tatouage, c'est si vieux que ça?
Ah oui, vous n'imaginez pas à quel point le plus vieil homme tatoué connu vivait il y a 5300 ans. Donc voilà, là ça date. Hein. De façon générale, toutes les sociétés anciennes ont connu le tatouage. Hein. La fonction du tatouage, c'était de marquer une appartenance à une communauté, une sorte d'étiquette si vous voulez. En Europe, il y en avait partout, en Grèce, chez les Romains. Mais à partir du 8e siècle, tout change puisque l'Église l'interdit. Donc pendant 1000 ans, ça va se faire très très rare en Occident.
Et quand est-ce que la mode est revenue?
Alors c'est une histoire amusante. Ça se passe au 18e siècle. Il y a un navigateur anglais qui s'appelait James Cook qui fait escale à Tahiti. Et les Tahitiens adoraient les tatouages. Donc évidemment, ils les montrent aux marins anglais. Les marins anglais adorent ces tatouages, donc ils se font tatouer. Tout le monde rentre en Angleterre. Et alors là, ces tatouages font un énorme buzz en Grande-Bretagne. Tout le monde adore, c'est le début d'une mode qui ne s'arrêtera plus.
D'où la passion des marins pour les tatouages?
Exactement, et forcément, qui dit marin dit voyage. Les tatouages vont se diffuser dans tous les ports d'Europe. Alors au début, les tatouages, c'est pour les canailles, hein, les gens un peu louches, bref, tout ce qui est marginal. Okay. La police va d'ailleurs s'en servir comme d'un outil, puisque au 19e, on tatoue les prisonniers, les bagnards, les criminels, comme un signe indélébile de leur infamie.
Ça veut dire quoi, que les gens chics, eux, n'en avaient pas?
Eh bien si, puisque au 19e siècle, le tatouage devient très à la mode au sein de la famille royale d'Angleterre. Et oui, et alors ça s'explique, hein, puisque les princes anglais faisaient, d'ailleurs ils le font encore, leur service militaire dans la marine. Donc quand ils étaient dans la marine, ils en profitaient pour faire des trucs de fous, comme se faire tatouer, et ça concernait même les rois. Prenez le roi d'Angleterre, George V, hein, qui a régné longtemps au début du 20e siècle, eh bien, il avait un tatouage de dragon à l'avant-bras. Et forcément, si les rois portent des tatouages, bref, c'est donc que c'est chic, la haute société va s'y mettre.
Cette mode, est-ce qu'elle va durer?
Alors, pas dans les familles royales, hein, mais dans la culture populaire, oui, ça va durer. En France, le premier tatoueur officiel, c'est assez récent en fait, puisqu'il a ouvert en 1964 à Paris, dans le quartier de Pigalle. Il faut attendre les années 70 pour que ça explose. En 1980, il y avait 30 salons de tatouage en France. Aujourd'hui, ils sont entre 15 et 20 000. Donc vous voyez, Apolline, même si Zlatan se fait retirer son tatouage, c'est la preuve de rien, juste une question de mode.
Ça peut revenir. Merci Arthur Chevalier, vous n'êtes pas tatoué?
Je ne vous le dirai pas.
Ah, c'est tout à fait secret.
Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, qu'on retrouve quand on veut, en podcast évidemment, sur l'appli RMC. Tout de suite à 7h27, on part au 32-16, accueillir Valérie qui nous appelle du Morbihan, direction la Bretagne. Joyeux Noël Valérie.
Merci, joyeux Noël à vous également.
Comment ça va ce matin Valérie? Je vois que c'est un peu la magie de Noël pour vous en Bretagne, il y a quelques flocons ce matin?
Oui, bah là ça a arrêté de neiger, mais là le sol est tout blanc chez moi, donc ça intimide un peu les chiens d'ailleurs qui n'ont pas trop envie de sortir, mais non, c'est très un Noël blanc, c'est superbe quoi.
Ah bah oui, c'est super Valérie, vous avez pu réveillonner un peu, fêter Noël?
Oui, je devais aller moi réveillonner à Concarneau chez des amis et ma chienne a trouvé le moyen de me faire une portée de chiot. Le 22 décembre, donc c'est des amis qui sont venus réveillonner à la maison.
Ça date.
Donc ils vont rester un petit peu plus longtemps que ce qu'ils avaient prévu parce que bon, comme ils sont comme moi retraités, ils n'ont pas d'impératif pour rentrer chez eux.
C'est parfait, Valérie.
Une ou deux nuits de plus à la maison.
Bah, c'est super, c'est chaleureux avec les petits chiots aussi et la neige, c'est parfait cette carte postale de Noël. Merci beaucoup Valérie d'être passée par le 32-16 ce matin pour qu'on fête Noël tous ensemble en direct sur RMC. Vous aussi, vous continuez à nous le raconter, votre Noël, votre réveillon et puis ce matin de Noël qu'on vit ensemble au 32-16 dans un instant, le journal de 7h30 et juste après, on va prendre le large. On part au milieu de l'Atlantique avec un skipper du trophée Jules Verne. On va prendre le large avec Léonard Legrand qui tente le tour du monde sur le bateau du navigateur Thomas Coville. C'est dans un instant, c'est sur RMC.
RMC,
Apolline Matin.
Et à 7h30, votre journal vous est présenté par Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Aux grands mots, les grands remèdes et aux grands excès de vitesse, bientôt les grandes sanctions à partir de lundi. Ils deviennent des délits punissables de 3 mois de prison et jusqu'à 3 750 euros d'amende. L'espoir prudent des salariés de Brandt ce matin, après l'annonce surprise d'un projet de reprise de leur usine d'Orléans, 2 semaines après le placement en liquidation judiciaire du fabricant d'électroménager. Et puis l'heure était au retrouvailles hier soir à Marseille, où la bonne mère a accueilli sa première messe de Noël depuis sa rénovation.
Il va falloir lever le pied.
Car à partir de lundi, les très grands excès de vitesse vont devenir des délits. Jusqu'ici, ils n'étaient sanctionnés que par une simple contravention à moins d'une récidive. Mais désormais, si vous roulez à plus de 50 km/h au-dessus des limitations, vous risquerez une inscription au casier judiciaire, 3 mois de prison et 3 750 euros d'amende, Marius Roland.
L'addition pourrait être salée, mais selon cet automobiliste au volant de sa voiture, cette mesure peut faire effet.
Je pense que c'est une bonne idée, même si tous ceux qui sont concernés n'arrêteront pas forcément. Peut-être que ça en freinera certains et peut-être que dans ce cas-là, on pourra éviter certains accidents.
Tous les conducteurs ne sont pas du même avis. En train de faire le plein, Stéphane estime que ces sanctions sont trop drastiques.
Bah, ça peut être dissuasif, mais je trouve ça un peu sévère comme peine pour 50 km/h de plus. Enfin, on a vite fait d'aller à 50, dans ce cas-là, ils ont qu'à brider toutes les voitures et puis on sera tranquille. Ils nous mettent tous à 25 km/h ou on roule tous à vélo. Ce sera très bien encore.
En alourdissant la peine pour les excès de plus de 50 km/h, il faudra être vigilant sur les voies où la vitesse maximale est de plus en plus basse, car un petit excès pourrait devenir un gros. Rémi Joussaume est avocat du droit routier.
Quand vous réduisez à 80 km/h la vitesse sur les routes départementales, les gens n'ont pas forcément changé leur habitude de conduite. Et la route, elle est pas plus dangereuse qu'auparavant. Simplement, comme on a baissé la vitesse, on fait entrer dans le filet des personnes qui commettent des excès de vitesse d'au moins 50 km/h, plus de personnes qu'auparavant.
Selon les données de la sécurité routière, la vitesse représente la première cause de mortalité sur les routes françaises.
Et les grands excès de vitesse sont en forte augmentation, plus 69% depuis 2017.
Et on en parle juste après ce journal avec mon invité, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, Marie-Pierre Védrenne, en direct sur RMC.
La nouvelle a donc été confirmée hier et on connaît désormais l'identité de l'homme d'affaires qui propose de reprendre l'usine Brandt d'Orléans. Il s'agit du patron de l'entreprise d'informatique Thomson Computing, Stéphane Français, qui sera d'ailleurs votre invité, Charles, à 8h10. Il propose de sauver 150 emploi du groupe d'électroménager placé en liquidation judiciaire il y a 2 semaines. Mais ça ne sera pas si simple, rappelle la spécialiste des questions de réindustrialisation, Anaïs Voigilis.
Le marché de l'électroménager est extrêmement concurrentiel. Il y a certainement de la place pour des produits made in France, peut-être haut de gamme, peut-être sur des tailles de produits différentes. Mais ça s'étudie. Si c'est pour refaire des produits qui sont produits ailleurs en grande série à prix très compétitif, il va falloir avoir des investissements industriels importants pour automatiser et essayer de se rapprocher du prix chinois. Et donc ça pose tout aussi la question du modèle industriel qu'on veut défendre en France. Faire de l'électroménager en France est important. Maintenant, la réalité du marché est que le consommateur ne suit pas forcément.
Un projet de reprise qui devra de toute façon être validé par la justice.
7h34 sur RMC, on en vient à présent à ce terrible homejacking dans le Val-de-Marne.
Un cambriolage ultra violent qui s'est déroulé mardi soir dans un pavillon de Saint-Maur-des-Fossés. Les 3 cambrioleurs toujours activement recherchés ce matin s'en sont pris à l'enfant et à la nourrice des propriétaires, Julie Brault.
Oui, vers 19h30, mardi soir, 3 hommes font irruption dans un pavillon de Saint-Maur-des-Fossés. À l'intérieur, une petite fille de 3 ans et sa nourrice se font alors séquestrer par l'un des cambrioleurs. Armé d'un couteau, l'homme plaque et maintient au sol la nounou qui tient de toutes ses forces l'enfant dans ses bras. Il a ensuite menacé de tuer la fillette en cas de mouvement, confie une source policière. Une scène d'une extrême violence qui a duré plusieurs dizaines de minutes avant que les 3 malfaiteurs prennent la fuite après avoir entièrement fouillé la maison. À ce stade, le préjudice financier n'est pas encore connu, mais la petite fille et sa nounou ont été hospitalisées mardi soir en état de choc. Les 3 malfaiteurs, eux, sont depuis activement recherchés par les enquêteurs de la police judiciaire du Val-de-Marne.
Jour de repos à la Coupe d'Afrique des Nations ce jeudi, après notamment la victoire de l'Algérie 3-0 hier face au Soudan. Et désormais, les supporters peuvent entrer gratuitement dans les stades 20 minutes après le coup d'envoi. La mesure a obtenu le feu vert du comité d'organisation marocain de la CAN et de la Confédération africaine de football. Mais vous l'avez constaté sur place, Nicolas Pelletier, ça n'est pas sans conséquence.
Oui, depuis dimanche soir, de nombreux stades sont loin d'être complets pour les rencontres de la CAN. Pour éviter les sièges vides, les autorités marocaines et l'organisation Association distribue des billets gratuitement dans les quartiers proches des enceintes. Des places à 200 dirhams marocains, environ 20 € sont données aux passants, mais depuis quelques heures, la nouvelle se propage rapidement entre les supporters. Hier, lors du match de l'Algérie, cette méthode s'est retournée contre l'organisation. Alertée sur les réseaux sociaux, plusieurs centaines de personnes se sont présentées au stade sans billets, entraînant des mouvements de foule et bousculades. Les autorités n'ont pas du tout apprécié et l'organisation a décidé de fermer les grilles du stade dès le début du match. Conséquence, certaines personnes qui avaient acheté des billets officiels n'ont pas pu voir la rencontre.
Et ça aurait pourtant pu avoir des allures de cadeau de Noël, ces matchs gratuits de la CAN. Un vrai cadeau à présent pour les Marseillais qui ont pu assister hier soir à la première messe de Noël de Notre-Dame de la Garde depuis sa rénovation. Des Marseillais nombreux et heureux. Anna Jojard.
Il y avait tellement de monde sur les bancs que beaucoup ont assisté à la messe debout. Parmi eux, nombreux sont ceux qui venaient pour la première fois.
Pourtant, j'ai toujours vécu à Marseille, mais c'est la première fois.
Nos familles sont un peu éparpillées à droite, à gauche pour cette soirée. Donc on a pris la décision de venir passer le réveillon ici.
Ça me paraît important. C'est un moment en famille, c'est un moment festif.
Un moment collectif où les Marseillais ont pu admirer de près la bonne mère rénovée.
Elle est rayonnante, elle est magnifique. Ça fait plaisir de la voir comme ça.
Elle est toute belle maintenant, donc c'est la gardienne de Marseille et de tous les Marseillais. Et voilà.
Et c'est d'ailleurs spécialement pour voir la basilique que Christelle et sa mère Eliane sont venues.
C'est pas tant pour la religion, parce que je suis plus athée que chrétienne, mais c'est par ce qu'elle représente pour Marseille.
Qu'on soit catholique, musulman ou même... Notre-Dame, c'est Notre-Dame de la Garde.
Ouais. Et ces deux Marseillaises l'affirment. Ici à Marseille, la bonne mère, c'est un peu comme la Tour Eiffel à Paris, mais en un peu mieux quand même.
Lui prononcera sa toute première bénédiction de Noël. Le pape Léon XIV s'exprimera à midi, heure française, depuis la basilique Saint-Pierre et devrait renouveler ses appels à la paix, même si sa demande de trêve n'a pas été respectée, notamment en Ukraine. De son côté, Donald Trump souhaite un joyeux Noël à tous, y compris aux pourritures de gauche radicale. Fin de citation. Une référence à ses opposants démocrates qu'il nous offre ce matin sur ses réseaux sociaux.
Bah, au moins, il leur souhaite un joyeux Noël.
Tout à fait.
On peut voir le verre à moitié plein. Ouais, exactement. On passe au quintet, le quintet de Noël, Élise, aujourd'hui, 15h15 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 13, Keep Your Dreams. L'outsider, c'est le 5, Calice Cana.
C'est bien noté. C'était le journal d'Élise Dangean en direct sur RMC et RMC Story. Et tout de suite, on part fêter Noël au milieu de l'océan Atlantique. Parce que c'est là que vous vous trouvez, Léonard Legrand. Bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Vous êtes sur un maxi trimaran, ouais. Le Sodebo Ultime 3, aux côtés du navigateur Thomas Coville. Vous êtes lancé à la poursuite du trophée Jules Verne. Objectif, battre le record du Tour du Monde en équipage. Léonard Legrand, joyeux Noël d'abord et racontez-nous, là, où êtes-vous précisément ce 25 décembre au matin ?
Merci, ouais, joyeux Noël à vous aussi. Alors nous, on est dans le sud de l'Atlantique Sud, donc là où l'air commence à se refroidir et l'eau commence à se refroidir. Et là, autour de nous, là sur le trimaran Sodebo, c'est un peu tout gris. On a du mal à faire la distinction entre le ciel et l'eau. Ça a une couleur assez gris pastel et il n'y a pas beaucoup de mer, donc les conditions sont pas très agréables. Par contre, il commence à faire vraiment frais et tout le monde le matin de Noël, là tout le monde a remis des couches, les bonnets et on sent que l'eau s'est refroidie, donc la coque s'est refroidie du bateau. Et ça commence à devenir, on commence à rentrer dans le vif du sujet du record du trophée Jules Verne. Ça devient intéressant.
Oui, vous arrivez en direction du Cap de Bonne-Espérance. Mais racontez-nous d'abord, est-ce qu'on réveillonne un peu quand on est en plein exploit sportif comme vous et tout l'équipage? Est-ce que vous avez pris une petite pause? Est-ce qu'il y a eu 2-3 toasts hier soir?
Alors c'est quand même on est engagé sur le trophée Jules Verne, donc c'est un record contre le temps qui s'arrête jamais, donc nous c'est pareil, on s'arrête jamais. Le bateau il est toujours lancé au maximum de ses capacités. Après on s'est quand même autorisé, parce que tout le monde n'est pas toujours dédié à la performance du bateau. Et donc les gens qui n'étaient pas de quart, comme on dit, ont pu rigoler, on a mis un peu de lumière différente, on a pu s'échanger avec les proches, rigoler ensemble, partager un repas qu'on ne fait pas d'habitude. Et donc là-dessus, on a quand même, ça a quand même une petite quelque chose de différent cette soirée du 24 au soir. Ouais.
Ben oui, parce que Léonard Legrand, vous êtes tout jeune, vous avez 31 ans, c'est votre premier tour du monde comme ça en équipage. C'est pas trop dur d'être loin de ses proches le jour de Noël ?
Alors, c'est un exercice un peu nouveau, effectivement. Je l'avais déjà expérimenté l'année passée parce qu'on était exactement au même endroit sur une tentative similaire l'année dernière. Mais c'est sûr qu'on a toujours des pensées un peu pour nos proches qui sont à terre, qui réveillonnent et qui se retrouvent. Et nous, on est un peu vraiment isolés dans une bulle, c'est le cas de le dire, une bulle en carbone, un peu isolée d'extérieur. Donc, on a quand même possibilité d'échanger avec eux, mais on n'est pas du tout dans le même thème et dans la même approche de la fête, quoi. C'est quand même vraiment différent. Mais c'est sûr que l'année prochaine, on espère fêter ça avec eux, avec le record en poche.
Exactement. Parlons de la performance sportive, parce qu'on sent bien que vous êtes tous tournés vers ça, aux côtés de Thomas Coville, tout l'équipage. L'objectif, c'est donc de battre le record détenu par Francis Joyon, 40 jours et 23 heures. Si j'ai bien compté, l'objectif, c'est de franchir la ligne au large d'Ouessant avant le 25 janvier prochain à 20h. Est-ce que vous y croyez? Vous êtes en avance là sur le record pour l'instant?
Alors ouais, effectivement, le temps établi par Francis Joyon sur IDEC, il est impressionnant. Après, c'était un bateau d'une ancienne génération, donc on sait que le temps il est à notre portée. Il y a des aléas qu'on maîtrise pas sur tout ce qui peut passer autour de l'environnement, c'est-à-dire des casses structurelles, des impacts, tout ce genre de choses, on maîtrise pas. Cependant, on a une certaine avance aujourd'hui d'un peu plus de, je pense, de 1000 milles, qui est nécessaire parce que lui, il va rentrer dans une phase où il va très très vite. Et nous, on va essayer de faire du mieux qu'on peut, mais l'idée, c'est d'être à égalité avec lui en Australie. Pour avoir une bonne chance d'arriver avant la date de janvier à Brest.
Et on l'entend autour de vous, Léonard de Grand, ça souffle, vous êtes en pleine course contre ce record à bord du Sodebo Ultime 3, ce maxi trimaran à bord de l'équipage, donc avec Thomas Coville notamment. Bon courage, bonne chance pour ce tour du monde et joyeux Noël à vous, à tout l'équipage, et puis vous retrouverez vos proches, on l'espère, avant le 25 janvier 2026 à 20h pour battre ce record du monde. Merci d'avoir pris quelques minutes en direct avec nous ce matin sur RMC pour fêter Noël au large, à bord du maxi trimaran sur l'Atlantique Sud. Il est 7h43 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on revient sur la terre ferme pour fêter Noël avec vous au 32-16 avec Michel qui est dans le Morbihan. Bonjour Michel.
Bonjour Charles, bonjour.
Michel, tout à l'heure Valérie nous annonçait quelques flocons de neige en Bretagne. C'est le cas chez vous aussi?
Oui, il a un petit peu neigé, effectivement, et puis là, ça s'est arrêté, mais bon, il reste une toute petite couche, c'est pas énorme. Avec les photos que vous envoyez, vous devez voir ça un petit peu.
Bah, ça donne quand même une belle magie à Noël,
c'est joli, petit manteau blanc. Avec l'éclairage de la mairie, là, c'est assez joli, oui.
Bah oui, c'est très joli, Michel. Vous avez pu réveillonner un peu, fêter Noël en famille?
Oui, tout à fait. J'ai mes enfants et mes petits-enfants, là, on s'est tous réunis, donc tout va bien, mais moi, je suis un lève-tôt, donc...
Est-ce que les cadeaux ont été déballés hier soir ou est-ce que ça va pas tarder ce matin là?
Oui, non, ça a été fait hier soir, effectivement. Oui. Bon, les enfants ont commencé à être grands, donc un peu grands. Donc,
Et vous, Michel, qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce qu'on a offert au grand-père hier soir?
Moi, j'ai eu un jeu qu'il faut jouer avec 4 ou 5 personnes. J'ai pas encore tout regardé. C'est un jeu de lettres. Ils savent bien que j'aime bien faire tous les jeux de lettres, les mots fléchés, etc. Donc, c'est un jeu de lettres, mais à jouer en société.
Ils vous connaissent bien. Et alors, Michel, il y avait le réveillon hier soir, mais il y a le déjeuner du 25 là, qui approche, non? Vous remettez ça à midi?
Ah, bien sûr, oui.
C'est quoi le menu aujourd'hui?
Ce midi, on va faire des confits de canard avec des pommes sarlaises.
Oh, ah oui, faut oui, c'est un bel enchaînement là après le réveillon d'hier soir, faut être solide là, c'est OK. On est qu'à mi-chemin quoi, si j'ai bien compris des festivités là.
Ah, tout à fait.
Ouais, et c'est vous qui êtes en cuisine, Michel?
Ah oui, j'adore ça.
Ah bah génial, avec la famille en plus pour en profiter tous ensemble, c'est génial Michel. Joyeux Noël à vous.
Moi,
il y a
toute l'équipe.
Ben oui, à toute l'équipe, évidemment, à tous ceux qui sont levés de bonne heure en direct sur RMC. Merci Michel. Comme Michel, vous continuez évidemment à composer le 32-16. On fête Noël tous ensemble ce matin sur RMC. Et puis on vit toute l'actualité en direct puisqu'on a reçu cette info hier. Désormais, les excès de vitesse seront beaucoup plus lourdement sanctionnés. C'est la surprise, on ne s'y attendait pas forcément à ce décret qui vient de paraître. L'annonce a été faite hier et dès lundi prochain, vous risquez la prison pour les dépassements, pour les excès de vitesse de plus de 50 km/h. Ces grands excès de vitesse vont devenir des délits et nous sommes en ligne avec Marie-Pierre Védrenne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ministre déléguée auprès du ministère de l'Intérieur. Dans un instant, vous nous expliquez ce que ça change concrètement sur la route à partir de lundi.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Charles Magnin.
7h46, bon réveil à tous, joyeux Noël à l'écoute d'RMC. On part tout de suite sur la route avec un changement, la loi qui se durcit à partir de lundi prochain pour les grands excès de vitesse. Mon invité, c'est vous, Marie-Pierre Védrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Bonjour.
Bonjour.
Ce décret qui vient donc d'être publié pour lutter contre les excès de vitesse de plus de 50 km/h. Jusqu'à présent, ils étaient punis d'une simple contravention. Désormais, c'est un délit. Qu'est-ce que ça change concrètement ?
Effectivement, nous changeons la loi, nous changeons notre volonté d'être plus ferme vis-à-vis des très grands excès de vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a trop d'excès de vitesse, de très grands excès de vitesse supérieurs à 50 km/h sur la route. Et c'est pas une simple infraction, c'est la mise en danger de soi-même et c'est la mise en danger des autres à travers des très grands excès de vitesse. Donc il s'agissait d'adapter les sanctions vis-à-vis de ce type de comportement en mettant effectivement un délit en place, c'est-à-dire que maintenant un automobiliste qui roulera à plus de 50 km/h au moins se verra susceptible d'avoir une peine d'emprisonnement de 3 mois et 3750 euros d'amende. Je le répète, ce type de comportement peut conduire au pire drame. Donc il était important de faire évoluer la législation.
Qu'on soit bien concret, ça on le sait que la vitesse tue, que les excès de vitesse, les grands excès de vitesse sont en nette augmentation, mais concrètement là, vous nous dites 3 mois de prison, 3750 euros d'amende, ça sera pas automatique, ça veut dire qu'on passe systématiquement devant un juge ?
Écoutez, je pense que c'est important de rappeler que c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'en France, en 2024, 63 217 excès de vitesse supérieurs à 50 km/h étaient constatés. C'est pas des comportements anodins. Donc oui, il était nécessaire de faire en sorte qu'on passe d'une contravention à un délit. C'est-à-dire que oui, maintenant, toute personne sera susceptible d'avoir peut-être une peine de 3 mois d'emprisonnement ou de 3750 euros d'amende. Ça peut être aussi la confiscation du véhicule, la suspension du permis de conduire, l'interdiction de conduire certains véhicules. Ça sera après une étude qui sera faite au cas par cas en fonction aussi peut-être de la récidive qui sera faite ou non, le comportement de chaque
automobile. C'est un juge qui tranchera, Marie-Pierre Védrenne. C'est un juge qui tranchera.
Effectivement.
Oui, c'est important de le préciser, mais est-ce qu'il y aura des dérogations ? Selon nos confrères de BFM TV, la loi prévoit que l'automobiliste aura le choix de payer immédiatement une amende de 300 euros pour échapper aux poursuites. Est-ce qu'il y a un nouveau décret là qui va être publié ? Est-ce que si je paye immédiatement 300 euros, j'échappe aux poursuites et je ne passe pas devant le juge ?
En fait, il faut effectivement rappeler le contexte. C'est la loi du 9 juillet 2025 qui crée l'homicide routier et qui vise à lutter contre la grande violence routière, dont on met maintenant un décret en application qui va s'appliquer à partir du lundi 29 décembre. Donc c'est la loi finalement que nous déclinons. Et moi, je tiens à saluer justement le travail des parlementaires qui a été fait en amont pour faire en sorte que justement il y ait une conscience collective qui soit mise en place, parce que effectivement les automobilistes auront différents choix et ensuite le juge viendra aussi appliquer la loi.
Les automobilistes auront le choix, Marie-Pierre Védrenne, vous nous confirmez, parce que c'est pas dans le décret là qui a été publié hier.
Non, le décret, véritablement le décret vise à préciser les choses, que c'est un délit qui a une peine jusqu'à 3 mois d'emprisonnement et 3750 euros de rente avec inscription au casier judiciaire.
Oui, Marie-Pierre Védrenne, je vous repose la question. Si à partir du 1er janvier, je me fais flasher à 185 sur l'autoroute, est-ce que j'aurai le choix de payer immédiatement 300 euros pour éviter de passer devant un juge ?
L'objectif est véritablement de faire en sorte que, justement, nous puissions aller à des peines qui sont permises maintenant par la loi. Et ça, c'est véritablement, je pense, le point essentiel que doivent retenir nos auditeurs, et comprendre qu'un excès de très grande vitesse d'au moins 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée devient un délit. C'est ça, que doivent retenir les auditeurs.
Je l'ai bien compris. Ce que je n'ai pas compris, c'est ce qui se passe quand on se fait flasher.
Quand on se fait flasher, c'est que vous risquez, parce que vous mettez en place un comportement délictuel.
Je parle des sanctions, Marie-Pierre Védrenne. Est-ce qu'il y aura l'option de payer 300 euros d'amende ?
La sanction auquel vous êtes justement soumis quand vous commettez une telle infraction qui devient maintenant un délit, c'est 3 mois d'emprisonnement et 3750 euros d'amende avec inscription au casier judiciaire. Ou effectivement, confiscation de véhicules, suspension de permis. Parce que je le redis, c'est un comportement qui est gravissime. Et nous avons voulu adapter la sanction parce que c'est une gravité des faits et parce que nous voyons une recrudescence de ce type de faits. Donc c'est véritablement essentiel que les automobilistes se rendent compte de la dangerosité d'un tel comportement.
Mais Marie-Pierre Vétain, est-ce que vous pouvez me dire oui ou non s'il y aura cette amende de 300 euros si on veut échapper aux poursuites pour arrêter la procédure immédiatement si on se fait contrôler? Est-ce qu'elle existera, oui ou non?
Dans le décret tel qu'il sera publié le 29, avec la mise en compte à compter du 29 décembre, c'est véritablement les 3 mois d'emprisonnement et les 3750 euros d'amende avec inscription au casier judiciaire qui sont complètement inscrits dans ce décret.
Mais l'amende n'existera pas alors, Marie-Pierre Védrenne?
La possibilité d'avoir justement une amende, de payer tout de suite une amende, est inscrite dans la loi. Oui. Est permise, mais justement dans le décret à l'heure actuelle, ce n'est pas un point qui est spécifié.
Elle n'est pas spécifiée à l'heure actuelle, ça n'interdit pas ensuite de prendre un nouveau décret dans les jours ou les semaines qui viennent. Merci Marie-Pierre Védrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, d'avoir été en direct avec nous pour décrypter ces nouvelles sanctions pour les grands excès de vitesse sur les routes. Et je rappelle donc l'info principale, vous l'avez dit, en cas de très grand excès de vitesse de plus de 50 km/h, désormais ça devient un délit passible de 3 mois de prison, 3750 euros d'amende. Il est 7h52.
RMC, Apolline Matin.
Joyeux Noël sur RMC, 7h54 et le bonus avec Victor Porcher. Vous nous parlez de la chute de la Reine de Noël.
Eh oui, Mariah Carey et son All I Want for Christmas is You. Tous les ans c'est pareil, elle est partout, vous n'en pouviez plus. Eh bien ça y est, vous tenez votre revanche. Et oui, parce que le célèbre titre n'est plus la chanson de Noël la plus écoutée au mois de décembre sur la plateforme Spotify. Place à la grande gagnante de cette année.
Sia.
Sia, Snowman, je vois que ça vous plaît plus que Mariah Carey.
Bien match.
Bon, allez, pour le plaisir, on va quand même mentionner la médaille de bronze. Elle est pour Wham.
C'est la magie de Noël, il y en a pour tous les goûts et c'est toute une playlist de Noël.
Référence pour la médaille
d'or. Qu'on célèbre ce matin en direct sur RMC, 7h55. Avec Louise Salé. Rebonjour Louise. Bonjour, qui nous dévoile toute la semaine les cadeaux de Noël indémodables. Des objets que l'on trouve sous le sapin depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, on parle des cartes à collectionner.
Oui, et d'une carte en particulier dont les ventes ont quasiment doublé cette année. C'est un peu le cadeau qu'on a tous mis sous le sapin en 2025. C'est la carte Pokémon. Elle a presque 30 ans. Est-ce que vous y avez joué, Charles?
Je suis un poil trop vieux. Elles sont arrivées juste après ma sortie du collège.
Et vous, Victor?
Elles sont arrivées à ma sortie à moi.
Vous avez échappé, donc vous n'avez pas du tout joué même
j'ai
dans
pas
les cours
eu la
de
chance,
récré.
Pourtant, je les ai demandés, je peux vous assurer que je les ai demandés.
J'en ai acheté beaucoup à mes enfants, du coup, on m'en réclame beaucoup.
Bah oui, parce que c'est une passion qui commence tôt, dans les cours de récréation, justement, au primaire. Alors Mohamed, collégien de 14 ans, est un peu plus âgé, mais ça ne l'empêche pas de jouer.
Pour moi, ça a pas trop d'âge. Moi, en vrai, je m'en fiche, si mes potes, ils aiment pas, ça a pas m'aider à ne pas arrêter. Et parfois même, je les ramène à l'école, j'échange avec mes amis et tout. Et on prépare bien nos cartes et tout, avant de jouer.
Et je lui ai demandé comment on y joue. Alors, chaque carte a des pouvoirs différents. Si votre carte est plus puissante que celle de l'adversaire, vous gagnez le combat. Dans le cas inverse, vous perdez des points de vie. C'est un petit peu plus complexe que ça. Je vous résume les règles. Mais la principale activité des cartes, c'est passer du temps à méticuleusement les trier dans un classeur et à s'extasier devant cette collection.
Et il n'y a pas que les enfants qui les collectionnent.
Oui, plus de la moitié des acheteurs ont plus de 12 ans. Souvent des trentenaires nostalgiques qui ont redécouvert cette passion pendant le Covid. J'en ai rencontré plusieurs dans le magasin Maxi Games situé au Kremlin de Bicêtre, en banlieue parisienne, qui vend des cartes d'occasion.
On va dire que j'ai pris ma revanche et que maintenant j'ai toutes les cartes dont je souhaitais avoir quand j'étais petit.
J'ai plusieurs classeurs, on est 5-6 et après j'ai des boîtes en carton, en métal.
Depuis peu je me suis remis à jouer avec ma copine, on apprend les règles ensemble et je revends aussi à côté. Je fais un peu d'achat pour revendre.
Les filles sont de plus en plus nombreuses aussi, elles représentent un quart des ventes d'après l'Institut Circana.
Et ça coûte combien ces cartes?
Alors ça commence autour d'une dizaine d'euros pour un petit booster récent. C'est ce paquet en aluminium que vous achetez sans savoir quelle carte il contient. Mais les cartes rares d'occasion peuvent facilement valoir plusieurs centaines d'euros l'unité. La plus chère du monde, c'est un Pikachu Illustrator qui s'est vendu à plus de 5 millions de dollars. Ouais, c'est quand même, ça valait le coup quand même d'avoir ces cartes quand on était petit. aussi. Hein.
Il faut garder ses cartes. Quoi, c'est ça.
Absolument, c'est vraiment ce que sont en train de faire ceux qui y jouaient vraiment beaucoup quand ils étaient jeunes. C'est devenu en fait un vrai placement financier, hein, avec des dérives, puisqu'on a parfois des ruptures de stock quelques heures après la sortie d'une série de cartes qui sont achetées exprès pour être revendues deux fois plus cher sur Internet. Attention aussi aux arnaques, aux fausses cartes en circulation. Des cambriolages ont même eu lieu récemment dans des boutiques de cartes Pokémon.
Oui, c'est la folie. Alors là, on parle beaucoup de Pokémon. Il y a d'autres cartes qui ont un tel engouement ?
Oui, hein, je voulais apporter, c'est Magic. Et ces cartes sont même un petit peu plus vieilles que Pokémon. Elles datent de 1993, mais elles sont toujours à la mode. Mmh. On y joue hein, davantage, c'est un jeu un petit peu plus complexe, mais elles se vendent toujours très bien.
Et ben voilà, elles sont peut-être sous le sapin là. Peut-être que vous êtes à quelques minutes du déballage des cartes Pokémon à la maison. Merci beaucoup, Louise Salé. On peut les garder les cartes parce que j'ai quelques demandeurs à la maison là.
Ah ouais.
Il faut les renvoyer, je crois.
Il faut les renvoyer, ouais, malheureusement. C'était le deal.
Papa, je veux un booster. Voilà une phrase que j'ai beaucoup entendue. Dans un instant sur RMC, la météo et votre journal de 8h. Joyeux Noël à tous.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
8h01, joyeux Noël! Vous êtes bien sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Pour le journal à 8h, présenté par Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Un paysage tout blanc en ce jour de Noël. La neige est tombée et avec beaucoup de joie chez ceux qui ont ouvert les volets ce matin. Noël sous 40 de fièvre pour de nombreux Français, par contre malades de la grippe, des médecins généralistes réquisitionnés dans les Bouches-du-Rhône pour désengorger les urgences. Et puis une loi ravive les tensions entre Paris et Alger. Loi pour criminaliser la colonisation. La France dénonce une initiative hostile.
C'est un beau cadeau de Noël pour de nombreux Français, de la neige à Noël.
Ouais, Noël particulièrement magique cette année pour tous ceux qui ont droit à ce beau spectacle de 2 à 3 cm tombés en pleine dans la nuit, notamment en Bretagne. Écoutez la joie de Valérie qui habite dans le Morbihan.
Il y a les plantes, bon, la neige sur les feuilles, j'ai une tonnelle, il y a de la neige sur le toit de la tonnelle. C'est rare, surtout en Bretagne. Ceux qui roulent seront moins contents, mais bon, on n'a pas de quoi faire de bonhomme de neige, hein, loin de là quand même. En ce moment, il y a tous les films de Noël qui passent depuis fin septembre, début octobre, tous les films de Noël où il y a de la neige à Noël tout le temps. Donc là, on est content, on a de la neige aussi.
C'est le Noël le plus froid depuis 15 ans. Plusieurs préfectures ont activé le plan grand froid, des maraudes supplémentaires, l'ouverture de places d'hébergement. C'est notamment le cas en Ille-et-Vilaine, dans la Manche, dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. De l'autre côté de la frontière alsacienne, justement, il neige aussi pour l'ouverture des cadeaux. Lucille Pascanet, vous êtes ce matin aux côtés d'une famille alsacienne à la frontière franco-allemande à Baden-Baden et vous avez assisté au déballage des cadeaux.
Oui, hein, les cadeaux viennent juste d'être déballés. Vous entendez peut-être Edouard est encore en train de jouer avec Edouard qui a 10 ans et qui est juste à côté de moi. Edouard, qu'est-ce que tu as eu comme cadeau ce matin?
Alors j'ai eu un Uno, j'ai eu 3 livres avec un livre d'Inoktag.
Avec un livre.
Comment tu te sens? C'était dur ce matin d'attendre
jusqu'à 8 heures pour ouvrir tes cadeaux?
Oui, beaucoup.
Beaucoup? Très bien. Est-ce que tu es content de ce que tu...
m'attends?
Très content.
Juste à côté, on a le papa qui est en train de regarder tous ces cadeaux qui sont à côté d'Edouard. Vous, comment vous vous sentez ce matin après avoir offert cette joie à votre fils?
On est arrivé au... Voilà, il y avait de l'excitation hier soir jusqu'à très tard. Et puis, il y a eu un réveil très matinal déjà ce matin où voilà, il me remuait dans le lit en me demandant « Papa, il est quelle heure ? Papa, il est quelle heure ?» Voilà, donc enfin l'instant magique est arrivé. Et c'est toujours un plaisir de faire plaisir à des enfants, tout simplement. Voilà, parce que ça fait partie de la vie. Et Noël, c'est ça, c'est ces moments magiques avec en famille et avec et pour les enfants quoi.
Oui bah oui hein, là c'est un moment de bonheur et puis c'est que le début hein, de ce marathon de Noël puisque Edouard aura d'autres cadeaux un petit peu plus tard et là je crois comprendre qu'il va partir faire de la luge puisque ici il y a de la neige à Baden-Baden. Joyeux Noël à tous.
Joyeux Noël, merci beaucoup Lucille Pascanet en Allemagne pour RMC.
Quel bonheur, le réveillon, plusieurs agriculteurs l'ont passé eux sur les barrages.
Oui, les quelques-uns qu'il reste dans le sud-ouest, notamment l'emblématique blocage de l'A64 à Carbonne au sud de Toulouse, où une messe de Noël a même été célébrée hier sur l'autoroute. Bertrand Loup y était, il est éleveur de bovins et vice-président de la chambre d'agriculteurs de Haute-Garonne.
des prêtres nous avaient contactés, justement, ils s'étaient portés volontaires pour nous la tenir. Puis on est arrivé à 300, 400, 500 personnes qui sont arrivées hier soir. Certains sont restés avec nous toute la soirée, ont profité du banquet qu'on a organisé. On a vécu un grand moment de solidarité, de fraternité. Tout ça sous un pont. Le soutien de la population nous montre qu'on est dans le vrai et que notre lutte pour notre territoire et pour notre agriculture locale, elle est justifiée. Donc, et là, justement, avoir encore plus de monde et puis cette fraternité, j'y reviens, hein, parce que sans ça, il n'y a rien. Ça nous galvanise.
Bertrand Lot, éleveur de bovins, invité d'RMC ce matin. C'est une histoire qui semble tout droit sortie d'un conte de Noël. Une offre de reprise pour l'usine Brandt d'Orléans. Le groupe d'électroménager placé en liquidation judiciaire il y a 2 semaines. Hier, le patron de Thomson Computing a proposé de reprendre le site et de sauver 150 emplois sur les 350 de cette usine. Le maire d'Orléans s'en félicite déjà, mais le gouvernement, Thomas Becker, préfère temporiser.
Oui, avec déjà un rappel du calendrier. L'appel d'offres démarre en janvier. Oui, la proposition présentée hier à Orléans sera examinée, mais elle le sera parmi d'autres. D'ailleurs, le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, a déjà reçu le patron de Thomson, Stéphane Français, mais en aucun cas, l'offre est tenue pour acquise. Il n'y a pas encore eu d'analyse approfondie. En coulisses, les services de Bercy reconnaissent qu'il n'y a pas, a priori, de réserve sur la santé financière de Thomson. Par contre, ils restent sceptiques sur l'électroménager. Peut-être que ce n'est pas l'avenir du site, glisse-t-on à Bercy, très refroidi par la liquidation de Brandt prononcée il y a 2 semaines. Si l'État reste prudent, c'est parce qu'il attend d'autres offres dans les semaines à venir, en rappelant qu'à la fin de la procédure, c'est le tribunal qui tranchera.
Thomas Becker, service politique d'RMC.
Et Stéphane Français, le patron de Thomson, qui promet de reprendre 150 emplois chez Brandt, sera mon invité dans un instant en direct sur RMC.
Des excuses officielles et des réparations, c'est ce que demande l'Algérie à la France pour l'avoir colonisée. Plus de 60 ans après son indépendance, le Parlement algérien a adopté à l'unanimité hier une loi qui criminalise cette colonisation. Caroline Renaud, les relations sont déjà glaciales entre les deux pays et ça ne va pas les réchauffer.
Pour Alger, l'État français est juridiquement responsable des crimes commis pendant la colonisation, crimes que la nouvelle loi liste, entre autres, exécutions extrajudiciaires, tortures, pillage des richesses, essais nucléaires, des dommages matériels et moraux que la France doit complètement indemniser, selon le Parlement algérien. Une demande surtout symbolique, puisque la loi n'a aucune portée internationale. Elle n'est donc pas contraignante pour la France, mais son adoption en pleine crise diplomatique entre les deux pays reste une initiative hostile aux yeux du ministère des Affaires étrangères français. Selon lui, la loi met à mal à la fois, je cite, la volonté de reprise du dialogue franco-algérien et un travail serein sur les enjeux mémoriels.
La grippe joue les troubles fêtes cette année. L'épidémie continue de s'intensifier partout en France et touche toutes les classes d'âge. Augmentation particulièrement forte chez les moins de 15 ans. Le pic attendu d'ici à début janvier, période particulièrement compliquée pour être malade car pendant les fêtes, une grande partie des cabinets médicaux sont fermés. Décision a donc été prise dans les Bouches-du-Rhône de réquisitionner des médecins généralistes à partir d'aujourd'hui. Philippine Boulet, pour éviter la saturation des urgences.
Oui, rien que la semaine dernière, la grippe a entraîné près de 2000 passages aux urgences dans la région PACA et 450 hospitalisations. Dans les Bouches-du-Rhône, les permanences de soins ne sont pas suffisamment assurées, notamment en raison des congés de fin d'année. Les 17 médecins réquisitionnés ont été choisis parce qu'ils n'ont aucune garde prévue l'année prochaine, précise l'ARS. Ils devront donc assurer une permanence jusqu'au 4 janvier. Cette décision provoque la colère d'une partie de la profession. Jean-Paul Hamon est président d'honneur de la Fédération des médecins de France.
Ces médecins-là sont sur le pont toute l'année et là on viendrait les réquisitionner, leur envoyer les gendarmes sans se préoccuper de leur situation familiale, sans se préoccuper de leur situation d'épuisement.
Les médecins qui refuseraient de se plier à cet arrêté s'exposent à une amende de 3 750 euros.
Précision de Philippine Boulet pour RMC.
Et puis pas de trêve de Noël pour la NBA.
Au contraire, une affiche de rêve pour Victor Wembanyama. Son équipe des Spurs affronte le Thunder d'Oklahoma City pour la 2e fois cette semaine. Le Français qui s'est imposé comme une star du championnat est donc programmé ce soir 20h30 pour Noël. Une consécration pour finir l'année en beauté, Morgan Mori.
Après l'ouverture des cadeaux, les Américains réclament le meilleur de leur sport à la télé. En basket, c'est Victor Wembanyama face à la plus forte équipe du moment, Oklahoma City. Wemby a gonflé ses statistiques, 24 points et 12 rebonds de moyenne. Stephen Brun, membre de la Dream Team RMC.
On n'est plus dans l'expérimentation et on voit que le rôle de Victor, il est un peu plus centré sur ses qualités, c'est-à-dire dominant à l'intérieur. On est content de le revoir très bon et surtout on est très content de le voir dans une équipe compétitive. C'est ça qui nous manquait.
Après une thrombose à l'épaule la saison dernière, Wemby s'est blessé un mollet et depuis son retour, son équipe le ménage. Il est remplaçant, son implication ne change pas et son équipe gagne quand même pour sa troisième année. Il n'hésite plus à chambrer. Il y a quelques jours, il a affirmé qu'il serait le meilleur joueur de la Ligue lorsqu'il refoulerait les parquets.
Et les matchs de Noël sont souvent particuliers. Ils laissent parfois voir des performances hors normes. Je sais que Victor est très attaché à ça et je ne serais pas surpris d'une énorme performance de Victor Wembanyama, mais une énorme performance chiffrée sur un match de Noël, ça marque les esprits.
Une seule ombre le menace, celle d'une nouvelle blessure. S'il rate encore 6 matchs dans l'année, il ne sera plus éligible pour les récompenses individuelles en fin de saison.
Et puis le comité d'organisation de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, veut éviter les tribunes vides. Elle autorise désormais l'accès gratuit aux supporters environ 20 minutes après le coup d'envoi sur certains matchs.
C'était le journal de Clara Gabillet. Joyeux Noël, Clara.
Joyeux Noël.
Et à tout à l'heure pour un nouveau journal en direct sur RMC. On part tout de suite au 32-16. On fête Noël tous ensemble ce matin sur RMC. Je vois Joël qui nous appelle comptable dans la Drôme. C'est ça, bonjour Joël, joyeux Noël.
Oui, bonjour Charles, joyeux Noël à tout le monde.
Mais oui, comment ça va ce matin Joël?
Eh bien, très bien, prête à aller skier.
Vous êtes au ski, parce qu'il y a écrit Drôme oui. sur ma fiche. Vous êtes en vacances au ski?
Tout à fait, à Valfréjus, au-dessus de Modane, et on s'apprête à aller skier.
Ah, mais génial. Et vous avez quand même réveillonné à la neige hier soir?
Oui, tout à fait, à l'hôtel, tranquillement.
À l'hôtel, en famille, bah, génial. Et bien, quel plus beau cadeau de Noël que d'aller skier ce matin. Vous avez eu le temps de vous faire 2-3 cadeaux quand même?
Oui, on s'est échangé 2 petites bricoles. Enfin, nous, avec mon mari, c'était le cadeau, c'était le séjour au ski.
Oui.
Et on a échangé deux petits cadeaux avec les garçons qui sont avec nous.
Ok, super. Et donc, du ski en famille, aujourd'hui, il y a de la neige, là, à Valfréjus?
Il y a un petit peu de neige, et puis là, il floconne.
Ah, bah, il y en aura un peu plus, du coup, aujourd'hui, pour voir le verre à moitié plein. Mais c'est super d'être au ski en famille pour fêter Noël. Ça nous fait très plaisir de vous savoir en direct avec nous ce matin. Levez tôt quand même, pour profiter des pistes, j'imagine, Joël.
Oui, tout à fait. Et avec l'agréable surprise de vous entendre ce matin.
C'est l'autre surprise de Noël. Je suis là ce matin pour vous accompagner en direct. Et c'est un bonheur de vous entendre tous ce matin en direct au 32-16. Merci, Joël. Bon ski,
merci
bonne piste, bonne neige
à
toute
Noël.
La famille. Et joyeux Noël à vous. Vous faites comme Joël, racontez. Nous, évidemment, votre Noël ce matin. On est tous ensemble en direct sur RMC, mais tout de suite à 8h12, c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Parce que Pierre Rondeau, notre économiste, lui aussi s'est levé tôt. Joyeux Noël d'abord.
Joyeux Noël,
Pierre. Et tiens, voilà un beau cadeau de Noël. De l'or.
Oui.
Oui, le cours de l'or bat des records. Sa valeur n'a jamais été aussi haute, Pierre.
Ah oui, c'est simple. C'est tout simplement du jamais vu. Rendez-vous compte, Charles. Sur toute l'année 2025, l'or a pris 70%. Hier, une once, soit environ 122 grammes, s'est changée à plus de 4 500 €. Pour se rendre compte de cet envol, l'année dernière, à la même période, l'once d'or ne valait que 2 600 €. Cette hausse suit d'ailleurs une tendance globale sur les métaux précieux, puisque l'argent et le cuivre connaissent aussi une envolée, tout comme le platine, tous à des niveaux historiques.
Et comment on explique ce phénomène?
Alors, on a coutume de dire que l'or, tout comme les autres métaux précieux, est une valeur refuge, et que lorsque l'économie ne tourne pas rond, ne va pas très bien, on se tourne vers l'or. Et effectivement, depuis quelques années, l'économie ne va pas très bien. On peut citer la crise des subprimes en 2008, le cours monte à 575 €, crise des dettes souveraines, on dépasse les 1 000 €, Brexit en 2016, pandémie, Covid-19, guerre en Ukraine, etc., etc. Et aujourd'hui, 4 500 €.
Oui, à chaque fois en fait que l'économie déraille, le cours de l'or, lui, augmente. On devrait donc s'inquiéter à chaque fois qu'on voit que l'or flambe.
Alors, je voudrais pas plomber l'ambiance en ce jour de Noël, 25 décembre.
Non.
Mais on pourrait quelque peu s'inquiéter. On a des conflits géopolitiques, notamment un nouveau entre les États-Unis et le Venezuela. Une diminution des taux d'intérêt qui risquerait de plomber les rendements des placements financiers. Des perspectives de croissance plutôt molles dans la plupart des pays européens. Des taux de chômage qui pourraient augmenter. C'est simple, les investisseurs ont peur et donc se tournent vers l'or. L'or, c'est concret, c'est palpable, c'est sûr. On apprécie sa faible volatilité, sa stabilité. Donc oui, à chaque fois que son cours progresse, c'est le signe que quelque chose ne va pas dans l'économie, que quelque chose inquiète. Donc peut-être que là, faudrait-il se tourner vers l'or.
Merci pour toutes ces bonnes nouvelles en ce matin de Noël, Pierre.
Voilà,
je vous remercie
Noël.
Pas. Merci beaucoup, Pierre Rondeau. Il est 8h14 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on va aller faire un tour sur le WhatsApp de l'émission avec Victor Pourchet. Que disent les messages ?
Eh bien déjà, beaucoup de joyeux Noël, évidemment. On a Fabien qui nous dit qu'il a passé le réveillon avec sa fille, mais qu'il avait vu un peu grand pour le repas. Dans ce cas-là, c'est du grand classique. On reprend tout et ça servira pour un bon repas ce midi. Il y a ceux aussi qui bossent. On part à Bordeaux avec David, livreur et porteur de presse. Les journaux seront bien distribués ce matin. Réveillon court, mais c'était bien quand même, nous dit-il. Et puis un petit coucou de Pierre le poissonnier d'RMC. Ah oui. Et puis sur les nouvelles sanctions pour les très grands excès de vitesse, à partir de lundi, ça devient un délit avec une peine à la clé potentielle de 3 mois de prison et 3 750 € d'amende. On a d'abord Sonia qui nous dit que pour elle, c'est exagéré. Les automobilistes, dit-elle, sont devenus des vaches à lait pour le gouvernement. Fred, lui, est plutôt pour. C'est même pas du tout assez dissuasif, ces nouvelles sanctions, selon lui. J'ai pas fini de me faire doubler à toute vitesse et avec des franchissements de ligne continue, nous dit-il. Vous continuez d'envoyer vos messages sur le WhatsApp 06 12 424 424.
Et à 8h15, dans un instant, on en vient à la surprise de Noël. L'entreprise Brand, qui pourrait être en partie sauvée, reprise. 150 postes pourraient être conservés sur le site d'Orléans. Ce repreneur, c'est vous, Stéphane Français. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le patron de Thomson Computing. Vous avez présenté hier cette offre de reprise malgré un certain scepticisme. Dans un instant, vous répondez justement aux sceptiques en direct sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h17, bon réveil à tous, joyeux Noël sur RMC à la radio, RMC Story à la télé et dans ce studio ce matin, Stéphane Français, rebonjour, patron de Thomson Computing, entreprise d'informatique, et hier vous avez fait une annonce surprise, une offre de reprise partielle pour Brandt. Vous voulez reprendre une partie des salariés, 150 environ, sur le site d'Orléans. Pourtant, il y a quelques jours à peine, le tribunal de Nanterre plaçait Brandt en liquidation en expliquant que l'activité n'était plus viable économiquement. Autrement dit, plus possible d'être rentable en France en fabriquant de l'électroménager. Qu'est-ce que vous comptez faire pour relancer Brandt ?
Alors, évidemment, vous avez raison. Hein. Il y a une liquidation, donc il y aura un appel d'offres, il y aura des choix en fait qui seront opérés à ce moment-là par les liquidateurs. Nous, on a une offre en fait industrielle. On a une offre de reprise en fait des marques, une offre de reprise de l'activité évidemment historique, mais aussi une modernisation en fait de tout ce qui peut être proposé autour de Brandt, autour de De Dietrich. Vous saviez que De Dietrich, par exemple, faisait des voitures avant. Donc c'est pas, vous voyez, que des fours. Et donc l'idée c'est d'arriver sur les nouvelles technologies. L'avantage c'est que moi, en venant de l'informatique, ça fait 30 ans que je suis là dans la distribution. Je connais parfaitement le marché. Aujourd'hui, en fait, ce que je veux, c'est apporter en fait des lignes d'informatique à produire depuis Orléans. Donc ça fait un additionnel intéressant sous la marque Thomson. Évidemment aussi poursuivre vers les nouvelles technologies, les robots connectés qu'on est en train de développer, les lunettes connectées et les drones qui sont en développement également avec les produits anti-drones évidemment, puisque on parle de nouvelles technologies. Partout il y a l'IA. Et partout, l'informatique est au cœur de l'innovation.
Ce matin, on entend les salariés du site qui ont envie d'y croire, mais qui disent, attendez, c'est pas vraiment notre métier. Nous, on fait de l'électroménager, des fours. On n'est pas spécialiste des drones et des lunettes connectées. C'est possible de faire les deux au même endroit, où c'est la fin de Brandt telle qu'on l'a connue, et ça devient une entreprise de drones.
Non, mais c'est marrant parce que, en fait, comme vous le savez, Brandt, c'est une histoire française, en fait. Mmh. Ça fait partie de l'histoire de France. Comme Thomson, 100 ans pour Brandt, 132 ans pour Thomson. Et en fait, il y a toujours eu de l'évolution technologique. Brandt s'est jamais limité, en fait, à une seule gamme de produits. Si on regarde dans l'échelle du temps, tout a été fait en Brandt, en électronique. Pareil pour Thomson. Donc, on peut pas rester, en fait, sur un domaine qui n'a pas marché. Seulement, il faut, en fait, savoir continuer ce qui marche et est rentable. Mais par contre, additionner des nouvelles familles. Parce que derrière, les clients sont là. Moi, j'ai un soutien vraiment énorme en fait de la grande distribution, parce qu'on me connaît depuis 30 ans. Moi-même, j'ai fait partie du groupe PPR, j'étais directeur achat chez Surcouf. Franchement, je sais de quoi je parle. Et quand j'entends en fait d'autres intervenants qui expliquent que oui, mais il faut prendre son temps. Oui, ok, alors c'est bien de prendre son temps, mais moi je travaille jour et nuit. Et effectivement, le maire d'Orléans croit beaucoup dans le projet.
On vous a vu hier aux côtés de Serge Grouard, le maire d'Orléans, pour faire cette annonce. On a bien compris que les élus locaux, le maire d'Orléans était à fond de votre côté, mais est-ce que vous avez le soutien de l'État, de Bercy? Parce qu'à Bercy, on se dit beaucoup plus prudent sur votre offre de rachat partiel. On rappelle qu'il y a une procédure, un appel d'offres qui doit être lancé en janvier, que tout doit être ensuite validé par le tribunal, qu'il peut y avoir d'autres offres, etc. Il y a un peu de scepticisme aussi autour de votre annonce comme ça, surprise du 24 décembre.
Non, je pense pas qu'il y ait du scepticisme. Il y a de la réglementation. Il y a une obligation. Et moi, effectivement, j'ai rencontré le ministre, Sébastien Martin, et il est obligé de respecter la loi, c'est évident. D'ailleurs, c'est le liquidateur qui va décider. Et donc, il y aura un appel d'offres. La plupart aujourd'hui, en fait, sont en train de proposer des rachats de marques ou des choses comme ça. C'est un peu du saucissonnage.
Mais l'État pourrait se positionner, apporter son soutien à un dossier.
Non, franchement, ils l'ont apporté. Après, derrière, est-ce qu'ils ont le droit de se positionner en fait que sur un seul dossier? Non. Ils vont évidemment en fait regarder ce que le liquidateur va décider et en fonction aussi étudier en fait les offres. Le problème, c'est le temps. Et moi, je peux vous dire ce que je suis en train de faire en ce moment-là. Et j'ai déjà en fait des enseignes. Je vais avoir des courriers, des présidents d'enseignes qui expliquent en fait que la meilleure société positionnée, c'est la nôtre.
Pourquoi ?
Parce que, je vais citer par exemple, moi j'ai rendez-vous avec la direction d'Electrodépôt, qui sont extrêmement contents, ravis en fait que quelqu'un qui s'y connaît du métier puisse reprendre la marque, parce que si demain on met à la tête en fait d'une nouvelle société, parce que ce sera une nouvelle société, il n'y a plus de brand, je le rappelle.
C'est fini. La
liquidation a eu lieu. Oui. Et là, il y a des appels d'offres, effectivement, pour que soit un projet industriel, qui est le mien, qui est appuyé, en fait, par le maire, la région et l'État qui m'a reçu, mais qui ne peut pas se limiter à un seul projet, en fait, à l'étude. En fait, tout va être étudié, mais évidemment, franchement, je suis le mieux positionné parce que je sais de quoi je parle. Moi, j'ai repris Thomson.
Ce sera au tribunal de Trochet.
Ce que je veux dire, c'est que j'ai repris Thomson il y a 14 ans. Le modèle industriel, il était perdu déjà. En fait, donc j'ai montré après 14 ans...
Dans l'informatique, oui.
Ben évidemment, dans l'informatique, c'est le plus dur. Donc imaginez, il y a plus de marge dans le gros électroménager. Dans les produits connectés, il y en a encore plus. On peut faire plein de choses, mais il faut le faire bien.
Mais c'est message presque citoyen que vous envoyez, patriote, de dire j'ai sauvé déjà une boîte française dans l'informatique, je vais faire la même chose dans l'électroménager.
Moi,
c'est
je
ça
vais
que
le dire, j'en ai ras-le-bol qu'en France, on ne comprenne pas qu'il faut donner les boîtes à des spécialistes, pas à des gens qui théorisent. Pas des gens qui pensent que en saucissonnant, vendant les marques à droite, vendant les actifs, on peut réussir une France. On va dépecer la France, c'est ça qu'on veut? Ou est-ce qu'on veut des chefs d'entreprise qui s'intègrent dans un schéma qu'ils connaissent pour réussir? Voilà, c'est le seul message que j'ai à donner et j'ai rien d'autre à dire. Qu'ils étudient la meilleure offre, qu'ils apprennent, mais que derrière, que les emplois soient conservés pour un long terme.
C'était ma dernière question justement. J'entends votre coup de gueule justement sur la stratégie industrielle en France, mais quel message vous adressez aux salariés de Brandt qui ont forcément, pour lesquels l'espoir renaît depuis hier? On parle d'une offre partielle, 150 salariés, il y a 700 salariés en tout qui ont subi cette liquidation.
Alors, très honnêtement, pour avoir les chiffres, c'est 318 salariés sur Orléans, tout à fait, et mon objectif c'est 150 en 2026 et d'en prendre plus dès que je peux, dès que la rentabilité le permet, c'est inscrit dans le plan. Donc c'est pour ça qu'en vérité, on est plus sur 150, 250, voire plus. Pas si affinité, s'il y a résultat. Moi, je veux dire aux salariés de l'entreprise, c'est très important, que si mon projet passe, eh ben ceux qui voudront, avec une bonne volonté, rentrer dans l'entreprise nouvelle, le New Brandt, deviendront actionnaires de la société au bout de 5 ans. C'est mon schéma. Et si on faisait ça en France, on n'aurait pas de problème avec les syndicats, avec les gens qui ont envie de rester chez eux. En vérité, il y a un schéma nouveau. Il y a des soutiens qui sont en train d'arriver. Vous voyez, j'avais un petit message de Xavier Bertrand hier, très gentil, en disant j'ai envie d'entendre votre nouveau schéma de réindustrialisation. C'est quelqu'un qui se positionne au niveau national.
Hauts-de-France.
Et c'est quelqu'un qui, évidemment, est très ouvert à la conversation parce que derrière, il a compris que si on ne fait pas appel aux spécialistes, la France va mourir. Vous voyez pas ce qui se passe?
On le voit tous les jours. On en parle tous les jours. Alors, c'est pour ça que c'est important de vous entendre ça.
Alors, merci beaucoup de me donner ce temps d'antenne, mais soit on va dans un schéma de réussite face à la concurrence internationale, on redevient des vendeurs et on fait ce qu'il faut pour que ce soit rentable. On va pas réinventer, avec un euro aussi fort, on va pas usiner toutes les pièces, c'est fini, terminé.
C'est un nouveau brand que vous proposez, on l'a bien entendu. Je vous remercie Stéphane Français, un dernier mot.
Oui, s'il vous plaît. En vérité, aujourd'hui, on peut réussir, mais il faut une volonté générale d'aller vers les spécialistes et pas les théoriciens.
On a entendu votre coup de gueule et la défense de votre dossier, de votre candidature, votre dossier de reprise, votre offre de reprise partielle de Brandt ce matin. Stéphane Français, patron pour l'instant de Thomson Computing, mais peut-être à l'avenir donc du nouveau Brandt, comme vous nous l'avez présenté à l'instant. On verra. Ensuite, il y a l'appel d'offres, toute la procédure. Ça sera au tribunal de trancher. Mais merci d'être venu le défendre ce matin de Noël,
merci
en
vraiment.
Direct sur RMC. Il est 8h25. Tout de suite, on va se détendre, on va sourire, parce que vous savez qu'Arnaud Demanche a pris quelques jours de vacances. Il revient en pleine forme à la rentrée. Mais pour fêter Noël, on vous a concocté le meilleur d'Arnaud Demanche. C'est tout de suite.
Allez, un petit peu de douceur. Le parc Astérix qui va ouvrir ses portes en Allemagne.
Ah, Astérix, là. Pour une fois qu'on arrive à exporter un truc aux Allemands. Alors, ce sera le parc Astérix, comme en France, mais avec des clients qui ont du pouvoir d'achat.
Ah oui,
il va changer beaucoup de choses. Ils adorent Astérix en Allemagne. Et c'est vrai qu'Astérix, avec sa moustache jaune, son casque, son pantalon rouge, tu lui rajoutes des bretelles, c'est un petit bavarois. Alors dans la version allemande, il y a quand même des différences. Olixia, nous devons aller à Rome. Fini de tailler ton menhir.
Bien, j'arrive, Astérix. Je ne taille pas un menhir, je détruis un mur à Berlin.
Idée fixe, kommen Sie.
Oh, Idéfix, petit bébé, mon berger allemand de 130
kilos. C'est ça, il n'y avait pas la voix d'Idéfix, là, ne sentait pas, voilà.
Allez, Obélix, enfile tes sandales chaussettes. Je vais voir le druide pour qu'il me donne une ration de choucroute magique.
Je peux en avoir.
Non, tu es déjà tombé dans le tonneau de schnapps quand tu étais petit. Alors Emmanuel Le Chypre, qui connaît bien l'Allemagne, m'a dit, il y a même des albums spéciaux pour les Allemands, qui sont des gens plus rigoureux que nous. Ils ont fait Astérix travaille jusqu'à 68 ans.
Ah oui.
Astérix à la bourse. Astérix fait du nudisme sur la plage à Dresde. Le prochain album, c'est Astérix construit des voitures de qualité. Ça change de chez nous. Mais c'est un juste retour des choses, le parc Astérix en Allemagne. Parce que nous, on a déjà un parc qui célèbre les Européens blonds aux yeux bleus. On a le Puy du Fou. Et ben eux, ils feront l'inverse. Voilà.
Emmanuel Macron a annoncé l'interdiction des téléphones portables au lycée.
Ouais, dit comme ça, ça a l'air vachement simple. Hein. Il dit, on va faire comme ça, et hop, c'est fait. Alors que dans les faits, ça s'annonce quand même très difficile. Il doit rêver de faire tout comme ça. Il doit rêver de faire la même chose avec la drogue. Il ira voir la DZ Mafia. Bonjour les frérots. Dites donc, la drogue là, c'est pas bien. Maintenant, c'est interdit. C'est pas bon pour les jeunes. Oh, t'es sûr de toi, le sang? C'est pas bon pour la jeunesse? Putain, merci le boss, on n'y avait pas pensé. C'est bon, on arrête, c'est bon. Le deal, c'est fini. On va faire de la pâtisserie, le sang. Vous êtes d'accord, l'équipe?
Ouais, on va faire des éclairs au café, le boss. Merci de nous avoir ouvert les yeux sur les ravages des stupéfiants, monsieur le président. Tiens bon, le sang. Tu veux pas faire un troisième mandat?
Brigitte, j'ai fait un rêve formidable. Ah ouais, et c'était encore un rêve avec Mbappé? Mais non, enfin, Brigitte, arrête avec cette histoire. Le service militaire, pas de portable à l'école. Macron est clairement nostalgique de la France des années 80. Hein. J'ai peur de ses prochaines annonces. Française, français, j'ai un cancer et une fille cachée. Alors appelez-moi Dieu. J'ai aussi demandé à France Télévisions le retour de Stéphane Collaro et des Coco Girls à la télé. Chaque soir, elles chanteront « Ce mec est too much, ce mec est trop ». Je ferai aussi passer une loi pour interdire les écrans plats, parce qu'on peut même pas poser de napperon dessus.
Oui.
La France sera aussi pionnière sur le Minitel et Thierry Hazard sera nommé ministre de la Culture. Et dernière chose, je réintroduis le septennat. Du coup, je reste encore 4 ans. Voilà, ah oui, c'est too much, ah oui, c'est trop. Allez, à demain.
Arnaud Demanche, que vous pouvez réécouter aussi quand vous voulez, évidemment, en podcast sur l'appli RMC. On se retrouve dans moins d'une minute pour la météo et le journal de 8h30 avec à la une la neige qui s'invite en ce matin de Noël.
RMC jusqu'à 9h.
RMC 8h30.
RMC Apolline Matin.
Votre journal en direct avec Rachel Saadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Bretagne, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, la neige s'invite dans ce matin de Noël formant un joli manteau blanc. Mais attention tout de même aux glissades si vous comptez prendre la route aujourd'hui. La sécurité au volant, ça passe aussi par une réforme. Dès lundi, les très grands excès de vitesse pourront vous coûter cher, jusqu'à 3750 euros d'amende. Une offre de reprise, enfin, elle est officielle. Elle a été déposée hier pour l'usine Brandt d'Orléans, le patron de Thomson Computing propose de sauver 150 des 350 emplois.
Et donc, ce Noël est un Noël blanc. La neige s'invite au programme ce matin.
Oui, il a neigé en plaine, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bretagne, dans les Pays de la Loire. Charlène en parlait à l'instant. Et c'est de là, des Pays de la Loire, justement, que nous a appelé Emmanuel ce matin au 32-16. Cet agriculteur vendéen profite du joli manteau blanc laissé par les flocons dans son jardin.
C'est la magie de Noël. Ça, c'est sympa parce que j'en connais plein qui vont au ski tous les ans et qui galèrent parce qu'ils n'ont pas de neige à Noël. Ben là, impeccable. Les pelouses sont recouvertes d'un petit manteau blanc tout léger. Cette nuit, quand on est rentré, tout le monde regardait les téléphones. Il va neiger, il va neiger. C'est la magie de Noël pour nos enfants. Quand ils vont se réveiller, je peux vous assurer que ça va... Je pense que ça va être la neige avant les cadeaux. Ça va être le côté sympa. Ouais, je pense qu'il ne faudra pas qu'elle se jette dedans parce qu'elle risque de se faire mal. Mais ça va être vraiment le côté sympa quand même.
La neige, c'est joli bien sûr, mais ça peut aussi être dangereux sur les routes. Plus aucun département en vigilance orange neige verglas ce matin. Mais certains segments peuvent tout de même rester glissants. Les conseils d'Éric Gallardo, professionnel du pilotage automobile sur glace.
Si déjà on n'est pas équipé des pneus adéquats, la première chose c'est ne surtout pas sortir. Si effectivement on est équipé de pneus neige, dans ce cas-là, même si la prudence conseille quand même de rester à la maison, mais on peut toujours évidemment prendre la route en anticipant beaucoup les événements qui vont se produire et donc d'évoluer avec beaucoup de douceur. Il faut projeter son regard très loin et imaginer à chaque fois quels vont être les éventuels imprévus qui vont pouvoir survenir.
La prudence de mise au volant. Attention aussi à ne pas trop appuyer sur l'accélérateur. Dès lundi, si vous roulez à plus de 50 km/h de la vitesse autorisée, vous risquez une peine de prison allant jusqu'à 3 mois de prison donc, et une amende pouvant grimper jusqu'à 3 750 €. Ces très grands excès de vitesse deviennent un délit, une mesure radicale que justifie Marie-Pierre Vedrenne, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, était l'invitée d'RMC ce matin.
Ce type de comportement peut conduire au pire drame. Donc il était important de faire évoluer la législation. C'est pas des comportements anodins. Donc oui, il était nécessaire de faire en sorte qu'on passe d'une contravention à un délit. C'est-à-dire que oui, maintenant, toute personne sera susceptible d'avoir peut-être une peine de 3 mois d'emprisonnement ou de 3 750 € d'amende. C'est un comportement qui est gravissime. Et nous avons voulu adapter la sanction parce que c'est une gravité des faits et parce que nous voyons une recrudescence de ce type de faits. Et c'est pas une simple infraction. C'est la mise en danger de soi-même et c'est la mise en danger des autres à travers des très grands excès de vitesse.
8h34 sur RMC, regain de tension entre la France et l'Algérie.
Après le vote par le Parlement algérien d'une loi criminalisant la colonisation française, Alger réclame des excuses officielles, une initiative qualifiée d'hostile par Paris. Surprise générale chez Brandt, une offre de reprise a été déposée publiquement hier par Stéphane Français. Le patron de Thomson Computing veut récupérer l'usine d'Orléans et 150 de ses 350 salariés. Pour le moment, rien n'est fait. Et si le projet aboutit, il faudra tout de même s'adapter, comme l'explique Anaïs Voigilis, spécialiste de la réindustrialisation.
Le marché de l'électroménager est extrêmement concurrentiel. Il y a certainement de la place pour des produits made in France, peut-être haut de gamme, peut-être sur des tailles de produits différentes. Mais ça s'étudie. Si c'est pour refaire des produits qui sont produits ailleurs en grande série à prix très compétitif, il va falloir avoir des investissements industriels importants pour automatiser et essayer de se rapprocher du prix chinois. Et donc ça pose tout aussi la question du modèle industriel qu'on veut défendre en France. Faire de l'électroménager en France est important. Maintenant, la réalité du marché est que le consommateur ne suit pas forcément.
Les agriculteurs mobilisés sur l'A64 ont passé le réveillon de Noël sur leur barrage et ils s'y réveillent d'ailleurs aussi ce matin. Cela fait déjà une dizaine de jours que les manifestants campent à Carbonne en Haute-Garonne en opposition à la politique d'abattage massif en cas de dermatose nodulaire contagieuse.
À Marseille, Notre-Dame-de-la-Garde a de nouveau célébré Noël.
Oui, hier soir c'était la première messe de Noël depuis la fin des travaux de rénovation et pour l'occasion les Marseillais sont venus très nombreux à Najojar.
Il y avait tellement de monde sur les bancs que beaucoup ont assisté à la messe debout. Parmi eux, nombreux sont ceux qui venaient pour la première fois.
Pourtant, j'ai toujours vécu à Marseille, mais c'est la première fois.
Nos familles sont un peu éparpillées à droite à gauche pour cette soirée, donc on a pris la décision de venir passer le réveillon ici.
Ça me paraît important. C'est un moment en famille, c'est un moment festif.
Un moment collectif où les Marseillais ont pu admirer de près la bonne mère rénovée.
Ah, elle est rayonnante, elle est magnifique, ça fait plaisir de la voir comme ça.
Elle est toute belle maintenant, donc c'est la gardienne de Marseille et de tous les Marseillais, et voilà.
Et c'est d'ailleurs spécialement pour voir la basilique que Christelle et sa mère Eliane sont venues.
C'est pas tant pour leur religion, parce que je suis plus athée que chrétienne, mais c'est par ce qu'elle représente pour Marseille.
Qu'on soit catholique, musulman ou même...
bouddhiste. Tout le monde, Notre-Dame, c'est Notre-Dame de la Garde.
Ouais. Et ces deux Marseillaises l'affirment. Ici à Marseille, la Bonne Mère, c'est un peu comme la Tour Eiffel à Paris, mais en un peu mieux quand même.
Oui, bon, à Paris, on a la Tour Eiffel et le PSG. Et ce matin, on a décidé de revenir sur l'année XXL du club parisien.
Oui, les footballeurs sont pour le moment en famille. Ils se reposent, comblés, hein, c'est sûr, à n'en pas douter par les 6 titres qu'ils ont décrochés cette saison. Valentin Jamin, c'est du jamais vu pour un club français.
Oui, avec en apothéose le sacre tant attendu en Ligue des Champions, la première de l'histoire du club.
Avec Doué, Doué, faut y aller, Doué ! Paris sur le toit de l'Europe, 14 ans d'attente.
Paris a dominé le continent en gagnant aussi sa première Super Coupe d'Europe, puis la Coupe Intercontinentale il y a 8 jours. Le défenseur Nuno Mendes salue cet excellent bilan.
C'est une fierté, bien évidemment. Nous, on est là pour faire l'histoire dans le club. Chaque année qui passe, je pense qu'on est plus conscient qu'on est en grande équipe, que c'est notre mentalité, c'est la mentalité des vainqueurs.
Avec la Coupe de France, la Ligue 1 et le Trophée des Champions, cela fait donc 6 titres en 2025. Seul Barcelone et le Bayern Munich l'avaient déjà fait. Et ce collectif a porté Ousmane Dembélé vers le Ballon d'Or.
Ça clôture une très belle année où je pense qu'on a dominé le football mondial et gagné un ballon d'or, c'est exceptionnel.
Le tout grâce à l'harmonie trouvée par l'entraîneur Luis Enrique.
Si on pense seulement à l'année naturelle de 2025, c'est clair que c'est historique pour les clubs, pour les Parisiens.
Le seul couac, c'est une défaite en finale de la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea et il faudra attendre 2029 pour essayer de soulever ce trophée.
C'était le journal de Rachel Saadodine. Merci Rachel. 8h38 sur RMC. On continue de fêter Noël ce matin tous ensemble au 32-16 avec Eric qui nous appelle de l'Isère. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Charles. Joyeux Noël à tout le monde.
Joyeux Noël Eric. Où êtes-vous ce matin?
Eh bien moi je suis à l'Alpe d'Huez, au pied des pistes.
Ah génial.
Et je vais essayer d'égayer cette journée de Noël pour nos clients à l'école de ski. Et donc, on va essayer de les amener faire du ski tranquillement.
Ah, vous êtes moniteur de ski, Eric ?
Voilà, c'est ça. Pendant mes vacances, moniteur de ski et grutier sur des grues mobiles le reste de l'année.
Ah oui, grutier le reste de l'année et l'hiver. Et là, ça y est, vous avez enfilé la parka rouge là à 8h39 ?
Et voilà, on a mis la tenue rouge, on est au pied des pistes et on attend les clients tranquillement pour leur faire un beau cadeau en ce jour de Noël.
Ah bah génial, il y a de la neige à l'Alpe d'Huez, non ?
Il y en a un petit peu, oui. Bon, on préférerait en avoir un peu plus, que ça arrête de tomber sur le pont de Millau, tout ça, mais on en a encore un peu.
Ok, mais c'est génial. Et vous avez pu réveillonner hier soir, je sais pas, peut-être avec les collègues,
oui, un peu, non, en famille. Les parents sont venus de Toulouse, donc on a fait un petit repas. Avec un peu de pâte jaune, et puis voilà, tranquillement.
Oui, pas d'excès, parce que ce matin, donc, à 8h sur les pistes...
Ah, ben voilà, il faut y aller, puis il y a un peu de vent, là, ce matin, donc
bah,
ça
courageux.
Va être un peu frais.
Au boulot, Eric, moniteur de ski, c'est génial, bah, on prend un peu de hauteur avec vous ce matin, bah, on vous souhaite de la neige, si j'ai bien compris. Eric, du côté de l'Alpe d'Huez, moniteur de ski, joyeux Noël à vous, merci d'être passé par le 32-16, il est 8h40 sur RMC. Et on passe au choix de la rédaction avec vous, Pierre Bourgès, correspondant à Bordeaux pour RMC. Bonjour Pierre.
Bonjour Charles.
On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Pour la première fois en France, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la France a enregistré cette année plus de morts que de naissances, selon l'Institut National d'Études Démographiques. La natalité est en berne. Conséquence, le secteur de la garde d'enfants est en souffrance. Ce matin, Pierre, vous nous parlez des assistantes maternelles, premier mode de garde d'enfants, mais aussi le plus touché par ce phénomène.
Elles ont perdu la garde de près de 16 000 enfants par rapport à 2022, selon l'Observatoire National de la Petite Enfance. C'est le mode de garde qui perd le plus de petits et c'est de pire en pire.
L'année dernière, déjà, j'ai mis un petit peu de temps à remplir, mais là, vraiment, il n'y a pas d'appel.
Je vous présente Jessica Carré. Elle est assistante maternelle depuis 13 ans à Bergerac, en Dordogne. Et cela fait près de 3 ans que les contrats de garde d'enfants sont de plus en plus difficiles à trouver.
On a des sites de nounous, nous, où on va chercher les contrats ou... Voilà, on est en lien avec des parents et il n'y a pas de demande. Hein. Là, vraiment, on sent la précarité. Je la ressens cette année, vraiment. Je trouve que c'est très alarmant et moi, je me dis que peut-être que dans les 4-5 ans à venir, il faudra que je fasse une reconversion, quoi. C'est une déception parce que c'est vraiment mon travail, je l'adore.
Et depuis novembre, elle cherche déjà des contrats pour l'année prochaine, ce qu'elle ne fait jamais aussitôt d'habitude.
Et ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'assistantes maternelles?
Oui, en 2024, elles étaient 218 000 en France, c'est 4% de moins qu'en 2023. La baisse de natalité est l'une des raisons qui pousse les assistantes maternelles à se reconvertir. C'est le cas de Mélanie Camier, qui entame une formation pour devenir sophrologue dès l'année prochaine. Déjà cette année, elle n'a que 2 enfants sur ses 4 places disponibles.
J'ai quand même à perte, je vous dirais, la moitié d'un salaire. Je me suis acheté quand même ma maison en guise de mon travail, avec une nurserie, une cuisine, une salle de jeu.
Coût de l'opération 210 000 euros avec 67 000 euros de travaux. Tout ça, eh bien, il faut le rembourser. Alors pour l'instant, la seule solution, c'est de se serrer la ceinture.
Je me suis mis à faire ma lessive de moi-même. Je me suis mise à faire attention à mes dépenses. Je prends beaucoup d'anti-gaspi, des choses comme ça. On n'a pas trop le choix, quoi.
Et il faut bien comprendre que pour Mélanie, c'est une vraie désillusion. Encore l'année dernière, elle n'avait aucun problème à trouver des contrats de garde.
Je suis partie dans l'optique où il y avait beaucoup d'enfants à garder. En plus, les enfants, c'est vraiment un domaine qui me plaît énormément. Et quand je vois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de natalité, il n'y a plus de demande, on se projetait sur un avenir beaucoup plus long sur cette garde d'enfants. C'est vrai qu'à ce jour, moi personnellement, ça me met un coup.
Et malgré sa baisse de salaire, Mélanie a assuré aux parents qu'elle continuera de garder les 2 enfants qu'elle a jusqu'à la rentrée scolaire l'année prochaine.
Mais Pierre, c'est surprenant parce qu'on a tous dans notre entourage aujourd'hui quelqu'un qui se plaint de ne pas trouver de place en crèche, d'être sur une liste d'attente. Comment ça se fait ?
Effectivement, c'est paradoxal, mais c'est bien le cas. En moyenne, sur le territoire, il y a un peu plus de 60 places pour 100 enfants. C'est ce que l'on appelle le taux de couverture, mais ce taux, il augmente depuis quelques années. Traduction, il y a toujours des listes d'attente dans les crèches, mais elles sont moins longues, et donc les assistantes maternelles ne récupèrent plus ces enfants-là, regrette Audrey Bénard-Lessène, secrétaire générale de l'UNSA Pro Asmat, syndicat des assistantes maternelles.
Le premier mode de garde en France, c'est l'assistante maternelle. Mais on prône la crèche, mais on prône pas la SMAT. On se replie sur la SMAT parce qu'on n'a pas eu de place en crèche. Et on a même des parents qui ne nous disent pas qu'ils sont sur liste d'attente en crèche et qui, 6 mois après, nous disent « c'est bon, j'ai une place en crèche, au revoir ». C'est nous qui prenons les premières. La première ligne, c'est nous. Donc c'est pour ça que beaucoup d'ASMAT disent « mais en fait, je peux plus vivre correctement, donc je m'en vais ».
Le métier tente de se réinventer et a vu apparaître les MAM, les maisons d'assistantes maternelles qui leur permettent de mutualiser les coûts. Et avec la réforme des aides de la CAF pour le mode de garde en 2025, le coût de l'assistante maternelle va s'aligner sur celui de la crèche. Un véritable coup de pouce pour séduire les parents.
Merci beaucoup Pierre Bourgès pour ce choix de la rédaction correspondant d'RMC en Nouvelle-Aquitaine. À 8h44, on en vient à l'épidémie qui risque de gâcher les fêtes, l'épidémie de grippe qui pourrait atteindre son pic dans les jours qui viennent. Dans ce studio, le docteur Benjamin Davido, bonjour.
Bonjour à tous.
Médecin, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré en région parisienne, comment éviter de tomber malade? Quels sont les gestes barrières à appliquer là, peut-être pour le déjeuner de Noël qui approche tout à l'heure? Vos conseils dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin, RMC, c'était dans Face à Canteloup.
Jean-Louis Borloo qui est encore avec nous.
Mais je vais vous le dire, une chose, Apolline, le bordel est partout, même chez vous, Moi, j'ai mis 1h15 pour trouver votre studio. Et puis c'est géré par qui, tu sais pas. T'as un directeur des rédactions, t'as un directeur général, t'as un président directeur général. Déjà général, c'est du beau, mais t'as en plus il est directeur général. Tu vois sa piche de paye, tu pleures. C'est pas fini ça, parce que ça appartient à un actionnaire.
Ah là là.
Dont le gars, c'est pas le métier. Le gars, il est marin, il est sur les bateaux. Le gars, c'est Captain Igloo. Arrêtez de ricaner là, bon fond, parce que Captain Igloo s'est filmé, il vous voit, c'est le gars, je suis direct.
Nicolas Canteloup revient sur RMC dès le lundi 5 janvier à 8h50. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Charles Magnin.
Au RMC Story à la télé. Joyeux Noël à tous, d'abord à tous ceux qui viennent de se réveiller avec RMC. Même si ces fêtes de fin d'année pourraient être gâchées par l'épidémie de grippe qui ne cesse de s'intensifier, le docteur Benjamin Davido est avec nous ce matin. Rebonjour docteur, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré en région parisienne. On nous parle beaucoup du pic de la grippe qui est attendu dans les prochaines heures, dans les prochains jours pendant les fêtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français... il y avait des clusters un peu partout hier soir en France pendant le réveillon, que les Français s'infectent en ce moment?
Alors, sans faire de pronostic comme la carte de météo, je ne suis pas certain qu'on aura le pic dans les jours qu'on nous a prédit, puisque le pic de grippe, en général, c'est plutôt début janvier. Mais quoi qu'il en soit, en réalité, cette idée de pic, c'est une bonne image de l'ascension. Tout à l'heure, je vous entendais parler de la neige, de l'ascension de cette montagne. Mmh. Une augmentation forte du nombre de cas. Et vous avez raison, cette période des fêtes, en réalité, et on s'en souvient tous, on en parlera peut-être tout à l'heure du Covid, nous rappelle ces moments donnés un peu où on devait essayer de faire au mieux pour éviter de se contaminer lorsqu'il y avait la circulation d'un virus qui s'appelait à l'époque le Covid pendant cette période de pandémie. Et on a oublié en réalité la réalité qu'il y avait d'autres virus, d'autres maladies transmissibles. Et avant le Covid, il y avait la grippe. Et je vous assure, c'était pas beaucoup plus simple à l'hôpital. La mauvaise nouvelle, si je puis dire, c'est qu'en 2025, 5 ans après une pandémie, on fait pas mieux qu'avant.
Et pourtant, la ministre de la Santé, il y a quelques jours, disait, il faut reprendre les réflexes, des gestes barrières. Pourquoi pas porter le masque dès qu'on a des symptômes, si on a le nez qui coule, si on tousse et qu'on doit se réunir en famille, on porte un masque. Je suis pas certain que tous les Français aient porté un masque hier soir pour le réveillon. Là, il y a le repas tout à l'heure en famille du 25. Pourtant, il faudrait le faire, c'est ça. C'est impossible de réveillonner ou de fêter Noël tout à l'heure à midi en respectant les gestes barrières.
Non, je suis tout à fait d'accord avec votre remarque. C'est-à-dire que sur le fond, oui, il faudrait pouvoir se masquer lorsqu'on est symptomatique. Je pense qu'il faut d'ailleurs le faire, entre guillemets, toute l'année pour éviter de contaminer les gens. Comment on va se laver les mains si on a la gastro-entérite? La problématique, c'est que cette période, cette lune de miel entre le 25 et le 31, pour faire simple, et même un peu plus loin pour ceux qui ont des vacances en décalé, eh bien, elle n'est pas compatible avec le port de ce masque. Enfin, vous imaginez, vous allez prendre l'apéritif du 24 ou du 25.
On va pas manger avec un masque.
Bah, on sait pas le faire pour le moment. Oui. Peut-être qu'un jour, on trouvera une solution. Et faute de mieux, c'est pour ça, souvent, on nous dit qu'on est des vendus de laboratoire, mais c'est pour ça que nous on recommande le vaccin, parce que le vaccin c'est la seule arme qu'on a pour réduire la probabilité de tomber malade et surtout le forme grave et de se retrouver à l'hôpital. Parce que je suppose ceux qui nous écoutent, si demain après-demain leurs parents, leurs proches qui ont des maladies générales se retrouvent aux urgences, bah, c'est pas une bonne nouvelle, surtout quand on est en vacances, d'aller rendre visite à sa famille, à ses proches aux urgences.
Oui, mais là c'est compliqué. Si j'ai un enfant qui tousse un peu, qui a le nez qui coule, il faut que je lui dise de pas aller faire de bisous à ses grands-parents. Si je comprends bien, pour protéger les publics les plus fragiles, on ne met pas le bébé qui a de la fièvre dans les bras de ses grands-parents.
Alors en réalité, il faut surtout se rappeler des gestes pratiques et du bon sens. C'est ça qui prime et ce qu'on avait su appliquer très bien pendant le Covid, puisque la preuve, la pandémie s'est terminée. Il faut, je pense surtout dans ces situations-là, on peut pas mettre le masque, aérer les espaces clos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire idéalement laisser ouvert 10 minutes toutes les heures, ou plutôt, je pense que ça c'est plus pratique, laisser un filet d'air pour renouveler l'air d'une façon continue dans la pièce. Parce qu'on a tous le réflexe en hiver, et c'est bien ça le problème de ces virus de l'hiver, de se dire ah ben il fait froid, attendez, mais qu'est-ce qui a fait un courant d'air? Et en fait, la problématique, pourquoi on se contamine, c'est parce qu'il y a des gouttelettes qui restent en suspension et qui fait que lorsqu'on va parler, lorsqu'on va cracher, lorsqu'on va tousser, lorsqu'on plus on va parler fort, on va chanter, on va laisser ces particules virales en suspension et souvent contagieuses. Vous avez raison, on l'oublie, mais la grippe, c'est pas tellement une maladie des sujets âgés. Le bout du bout, c'est les formes graves, mais la transmission, elle se fait essentiellement par les enfants. Et donc, la logique, sans parler de plantable, bah, c'est d'éviter de mettre directement en contact des enfants qui toussent, qui ont le nez qui coule, auprès de personnes fragiles. On n'a pas besoin d'être âgé pour être fragile. On peut être jeune, avoir un diabète, une hypertension, d'autres maladies générales. Et donc, il faut faire plus attention pendant cette période. C'est pas toute l'année, c'est vraiment cette période. Et il faut rappeler ce chiffre, 17 000 décès sur la santé publique France l'an dernier sur une grippe particulièrement virulente. L'enjeu, c'est de faire beaucoup mieux cette année. Et on espère que la couverture vaccinale avec un élan plus fort nous permette d'amortir ce fardeau.
Mais alors justement, cette année, on parle d'un variant K. Est-ce que la grippe est plus sévère, moins dangereuse que l'an dernier?
Je vous réponds, la grippe, sans avoir des phrases toutes faites, la grippe, il faut se rappeler, c'est une maladie qui tue en moyenne entre 9 et 10 000 personnes par an.
Mais 17 000 l'an dernier, c'est une année particulièrement meurtrière.
Absolument, et encore une fois, on pourrait rajouter une couche en disant, malgré 5 ans de pandémie et les milliers de morts qu'on a connues en France chaque année de la Covid-19. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se méfier, sans mauvais jeu de mots, de la grippe comme de la peste. Et ce variant K, il n'est pas plus létal, ça, les données réelles, notamment au Royaume-Uni, le montrent, mais il est plus transmissible. Et Charles, vous allez très vite comprendre, une maladie qui est plus transmissible, arithmétiquement, peut créer plus de cas. Et c'est aujourd'hui ce qu'on voit, cette partie visible de l'iceberg, qui est un nombre important de contaminations. Et donc l'inquiétude, c'est de redescendre de cette montagne, de ce pic. Et ça, on sait que ça peut prendre un certain temps.
Et ce pic, il a des conséquences à l'hôpital. De plus en plus de patients. Est-ce qu'on arrive à un stade de saturation? On n'est pas encore au plan blanc, mais on nous dit que voilà, il commence à y avoir un afflux de patients. Est-ce que l'hôpital a de quoi faire face là à ce pic de grippe dans les jours qui viennent?
Vous avez raison, l'enjeu finalement, sans être égoïste, d'abord il faut rappeler la grippe c'est 1 milliard d'euros chaque année. Il n'y a pas que l'hôpital, il y a aussi la consommation de soins en ville, la consommation de soins tout court, il n'y a pas que les morts, il y a les gens qui survivent, et puis peut-être on parlera, il y a d'autres complications que tout simplement avoir la grippe au sens propre du terme. Pour l'instant, l'hôpital tient le coup, je pense que l'hôpital tient le coup grâce à ses soignants, qui sont extrêmement solidaires.
Et qui sont mobilisés en cette période de fête.
Et qui sont remarquables, il faut le dire. Pour le moment, on n'est pas dans une situation de plombement, vous avez raison, on est dans une situation de tension, avec des situations de gestion de crise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre responsables logistique sur la grippe, sur le Covid, eh bien, on s'appelle régulièrement pour vérifier que le parcours logistique des patients se fait. Pour vous donner un ordre d'idée, en Ile-de-France, on est autour de 92-93% d'occupation des lits. C'est pas inhabituel, mais évidemment, s'il y a une accélération des contaminations après cette période, on va se retrouver dans une situation où il va y avoir un peu d'attente, pour faire simple. Et la problématique, c'est que l'hôpital ne peut pas s'arrêter en disant, bah, cette année, on va s'arrêter de travailler parce qu'à la grippe, il faut réserver des lits pour la grippe. Et donc, on prend plus les chimiothérapies, on prend plus les gens qui avaient des examens.
Et le reste
des opérations
de l'activité qui doit se poursuivre.
Exactement. Donc, c'est un plus. Ouais. Et pour faire simple, c'est entre 5 et 10% de passages supplémentaires aux urgences. Ça paraît ridicule, mais c'est 5 et 10% de marge de manœuvre en moins. Et donc, évidemment, c'est un problème à l'approche de ces fêtes.
Est-ce qu'il est trop tard pour se faire vacciner? Si on se dit, bah, c'est bon, le pic est en ce moment, le plus dur est passé, je suis pas vacciné, mais j'ai pas eu la grippe, c'est pas la peine cette année de me faire vacciner. Ou est-ce qu'il est encore temps d'y aller là dans les heures qui viennent?
Alors d'abord pour rappeler pour ceux qui ne nous ont pas écoutés au début de l'interview, je pense que le pic il arrivera plutôt dans la première quinzaine de janvier.
Et donc il est encore temps, c'est encore important.
Il est encore temps. Pourquoi? Parce qu'on est sur une phase d'attention. C'est pour moi qui le dis. Sur les données Santé Publique France, on est sur une situation quasiment verticale des consultations pour syndrome grippal, notamment en ville. Et on sait d'ailleurs qu'il y a un petit décalage entre la ville et l'hôpital. Il faut jusqu'à 14 jours pour avoir une efficacité maximale du vaccin. C'est pas un effet on-off, c'est-à-dire que vous commencez à stimuler votre système immunitaire à sécréter des anticorps. Et tant bien même, le pic, je me serais trompé, il serait après-demain. Il va falloir redescendre de cette montagne de pics de contamination. Et ça prend globalement du temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que la grippe est une maladie de l'hiver. Et vous voyez où je veux en venir. Ça veut dire qu'on a largement le temps d'ici février, mais plus on attend, moins on a de bénéfices. Et je terminerai sur ce point. Même si on a fait la grippe cette année et qu'on se dit, bah tiens, finalement, on a stimulé notre immunité naturelle, on n'est pas certain de mettre du filet, vous ne serez pas protégé contre la grippe B, celle qui circule, c'est la grippe A. Oui. Et en 2022, on a eu un précédent où il y a eu deux vagues successives, grippe A, grippe B, et on a vu des patients revenir à l'hôpital pour deux fois la grippe dans la même année, sans dire que c'est du jamais vu, c'est des situations évidemment à éviter.
Alors les patients, justement, quand on attrape la grippe, ça peut être une forme légère, j'ai envie de dire, on reste chez soi, on a de la fièvre pendant 4 jours. Dans les cas les plus graves, ça se termine à l'hôpital. Et puis, on découvre aussi que la grippe peut avoir des conséquences à plus long terme, plusieurs mois plus tard.
Absolument. La grippe, en fait, on l'oublie, mais c'est pas qu'une maladie du poumon. D'abord, vous l'avez illustré, ces formes, on va dire, symptomatiques, la grippe qui donne 40, qui donne des courbatures, tout ça. En fait, c'est un virus qui va toucher tous les organes. Il peut même donner des atteintes du foie, mais l'inquiétude, évidemment, c'est de plus en plus, on découvre des atteintes d'autres organes, et notamment des organes nobles, comme le cœur et le cerveau. Et beaucoup de données estiment qu'on a ce qu'on appelle un risque relatif, c'est-à-dire une probabilité, un sur-risque de 5 à 8 fois plus de faire un infarctus du myocarde dans les 30 jours passant un épisode de grippe, y compris d'accident vasculaire cérébral.
Mais dans les mois qui suivent pas au moment de la grippe.
Tout de suite, dans les 30 jours. Dans les 30 jours. Et ensuite, bien évidemment, ces maladies, elles créent des séquelles à long terme, c'est-à-dire que ça crée en réalité une inflammation sur vos vaisseaux sanguins. C'est le cas pour d'autres virus avec des proportions différentes, celle du Covid, celle du VRS. Et donc on découvre petit à petit que l'idée de se dire, bah, finalement on n'est pas certain à mettre du filet, c'est terminé. En fait, il y a presque un capital santé, c'est-à-dire que ces problématiques, elles vont se répéter chaque année. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, c'est pas anodin, ces grippes qui se répètent dans le temps et qui sont sévères, parce que l'enjeu, c'est de vivre au mieux et plus longtemps.
Oui, donc même sans aller à l'hôpital, avoir la grippe pendant 4 jours tous les hivers, ça a
des conséquences sur l'organisme
à long terme. La dernière question depuis tout à l'heure, on parle que de la grippe, on en a oublié le Covid, c'est fini le Covid ou on surveille toujours?
Alors le Covid, c'est un animal difficile à adresser, si je puis dire. Pourquoi? Parce que c'est pas un virus saisonnier et on se rappelle pas, mais depuis 2020 en fait, il a sévi très fort chaque été et il déjoue finalement tous les pronostics. On a l'impression, et d'ailleurs j'ai écrit un article scientifique l'année dernière dessus, que il est capable, en tout cas, d'entrer en compétition avec le virus de la grippe. On verra si c'est le même cas cette année. Mais vous conviendrez que l'hiver dernier, l'événement de cette grippe particulièrement forte a annihilé la circulation quasiment du virus de la Covid. Aujourd'hui, il circule à très très bas bruit après une saison d'automne avec une accélération forte. Les fameux variants dit Frankenstein. Aujourd'hui, on est vraiment sur une grippe. Et donc, la problématique, c'est finalement le fardeau de ces deux maladies. Si schématiquement, tout le reste de l'année, vous avez de la circulation du Covid, et à l'hiver, boum, padaboum, c'est la grippe qui arrive, eh bien, on n'aura pas gagné grand-chose depuis la période de la pandémie.
Merci beaucoup, docteur Benjamin Davido, médecin infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré, d'être venu nous mettre en garde en ce matin de Noël. Oui, faites la fête, mais faites attention.
Et aérez. Profitez bien des bonnes fêtes et dans les meilleures conditions possibles.
Mais n'hésitez pas à aérer, à faire attention en cas de symptômes, notamment vis-à-vis des publics les plus fragiles. Et il est encore temps de se vacciner. C'était important de le rappeler ce matin en direct sur RMC, cette matinale de Noël. On va continuer d'ailleurs à être ensemble demain matin, évidemment, dans Apolline Matin sur RMC en direct à la radio, à la télé. Dans un instant, la météo, le journal de 9h. Et puis le meilleur des GG avec Alain Marchal et Olivier Truchot tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.